Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Qui êtes-vous?
Je suis le créateur d'une émission de télévision qui donne de l'espoir, de la joie et de l'inspiration à des millions d'hommes et de femmes.
Et moi?
Tu es le héros.
Bienvenue dans ce 12e épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. Et comme d'habitude à mes côtés, Guillaume et Aurélien. Salut les mecs.
Salut.
C'est la première fois qu'on se revoit et qu'on se retrouve en studio depuis un peu plus de 2 mois. Ça fait bizarre. Et à côté de vous, notre invité de la semaine, Maxence. Comment tu vas?
Mais très bien, merci Gibouille. Merci pour l'accueil.
Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Oui, Maxence, chanteur, comédien, influencer.
Ah, t'es un influenceur,
ouais,
toi.
Je suis un influenceur.
D'accord, très bien.
Dancer, quand même.
Oh, wow. Influenceur. Et voilà, je suis un peu dans la night, quoi.
Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui très souvent revient dans la bouche des gens lorsqu'on leur demande de dresser une liste de leurs œuvres cinématographiques favorites, à savoir The Truman Show. Film sorti en 1998, réalisé par Peter Weir, à qui l'on doit également Le Cercle des Poètes Disparus et les très bons Witness et Mosquito Coast avec Harrison Ford. The Truman Show, c'est l'histoire d'un homme interprété par Jim Carrey qui se trouve être depuis sa naissance et sans le savoir, la star d'une émission de télé-réalité centrée sur lui. Le film fit un carton à sa sortie, 260 millions de dollars de recettes pour un budget de 60 et obtint 3 récompenses de poids aux Golden Globes, meilleur acteur pour Jim Carrey et Ed Harris et enfin meilleure musique pour Burkhard Dalwitz et Philip Glass. Alors je me tourne vers vous, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec Maxence.
Alors déjà, je tenais à préciser que ça fait vraiment quelque chose d'entendre ta voix en direct, avec ce super micro de...
Je suis le default des podcasts.
Non, c'est incroyable. Okay, c'est un rêve de venir participer.
Merci, c'est gentil.
Et bref, c'est super. Écoute, moi malheureusement, je me suis posé la question, parce que j'ai bien travaillé, je connais bien le principe de ce podcast-là, et je me suis dit, quand c'est que tu as vu ce film pour la première fois, Maxou? Et honnêtement, je crois que c'était au début de mon adolescence, parce que évidemment, je l'ai pas vu à la sortie, j'avais 3 ans, si c'est 98, oui. Mais je crois ouais, l'avoir vu début adolescence chez mes parents, et en fait, je cherchais à voir un peu tous les films de la carrière de Jim Carrey, parce que j'étais un peu attiré par son travail. J'avais vu quand j'étais petit Ace Ventura, The Mask et tout ça, et bref, j'avais voulu voir un peu toute sa filmographie. Et voilà, ouais, je pense que j'ai été début adolescence et je pense que c'est un des premiers films qui vraiment m'a fait une sorte de petit choc psycho où tu le regardes et à la fin, ouais, t'as une sorte de... T'es pas bien, t'es tout ému et tu dis, ok, c'est ça la puissance d'un film, quoi. C'est ces émotions-là, je crois que c'est... Pour le coup, c'est quand même vraiment une des premières fois que j'ai ressenti ça. Ça, je crois arriver quand même à cibler ce sentiment-là, même si j'ai pas forcément la date ni la période, quoi.
C'est vraiment que tu dis ça parce qu'on en avait parlé déjà dans le podcast avec Sofiane, ce podcast spécial Forrest Gump, et moi ça me l'a fait avec Forrest Gump ça.
Ok.
Où je regardais des films pas quand sûr. J'étais petit, et Forrest Gump c'est le premier film où je me suis dit, ah ok, ça me procure des émotions que je connaissais pas vraiment avant. Guillaume, toi ton premier souvenir lié au Truman Show?
Le premier souvenir, je me suis posé la question aussi, je crois que je l'ai pas vu au cinéma ce film, mais il y a un souvenir très précis, enfin une scène très précise sans spoiler, mais on peut spoiler parce qu'il est sorti en 98.
Moi je pars du principe que si les gens cliquent sur le podcast Truman Show, c'est qu'ils l'ont vu. Et que... Mais on va essayer de ne pas trop spoiler. Quand même.
Sache que j'ai écouté des podcasts sans avoir vu les films.
Ah oui, alors est-ce que tu as été spoilé?
Oui.
Non, bon, voilà. Mais en vrai, on spoile pas trop.
Je vais vous donner juste une phrase et on va pas trop comprendre de quoi il s'agit, sauf si vous l'avez vu. La scène du bateau qui s'arrête, la façon dont il s'arrête, je me souviens personnellement que je suis le seul teubé à avoir fait. Mais non.
Mais attends, Guillaume, je vais dire un truc.
J'avais pas capté le trompe-l'œil en fait.
Non, mais Guillaume, je vais dire un truc. J'ai revu le film pour le podcast il y a 2 jours. Et je me suis fait la même réflexion, j'ai pas capté. Alors que maintenant, j'ai la trentaine passée. Hein, tu vois.
Ah ouais, et tu puis, vois, mais cette scène, par contre, cette scène, elle m'a marqué à fond parce que c'était genre un. Tu sais, tu regardes le film, t'es dedans, bon, tu te demandes où ça va, et d'un seul coup, tu sais, tu brises une sorte de. Le fameux quatrième. Mais je pense que c'est évidemment fait exprès.
Mais ce fameux, surtout, c'est un moment un peu lancinant où c'est un peu doux, on s'y attend pas vraiment en fait.
Pour l'avoir vu aussi, pareil, hein, je trouve qu'on.
Ah, tu vois pas?
Non,
mais non, mais en fait,
parce que ça
n'est
que un plan serré. C'est un plan serré, et t'as vraiment l'impression que c'est l'horizon. Et franchement, tu le vois pas. Et surtout. qu'est-ce que c'est beau, on dirait une œuvre d'art, quoi.
C'est ça, ouais.
T'as un espèce, même la première fois vraiment que tu vois le mur, le plan est hyper large, tu vois le bateau au loin, et t'as l'impression qu'il est devant une fresque immense, c'est trop beau visuellement. Ça, c'est
tu vois, pour moi, c'est vraiment cette image que je retiens de ce film qui m'a marqué à tout jamais, genre le mât qui rentre dans le mur. Je trouvais ça incroyable, je trouve ça hyper fin d'être arrivé à cette conclusion où, tu sais, après il touche le mur et il se dit, mais ok, bah ça y est, j'ai tout compris, quoi, c'est foutu.
Moi, je me souviens que je l'avais mis en photo de couverture Facebook.
Ça a changé ta vie. Couverture Facebook, ça veut dire là.
J'avais même écrit la réplique finale aussi en statut. Tu sais, cette fameuse époque sur Facebook où.
Ouais, mais ça, c'était pour se faire des meufs, ça. Genre, je regarde des films et tout.
Non, mais tu sais, des fois, j'avais des moments intenses où j'écoutais une chanson et tu sais, ça me bouleversait trop. Et je me disais, ouais, si je le partage, les gens, ils vont être bouleversés aussi. Tu sais, t'as un truc comme ça.
Mais tu sais qu'il y a
tu te rends compte, en fait, les kiffs, c'est que dans ta tête, tu vois. Comme quand t'écoutes une musique et que t'es à fond. Mais non, c'est dans ta tête.
Toute la terre l'écoute et tu mets juste les paroles et personne capte parce que personne connaît les paroles.
Mais tu sais qu'à l'époque des mécènes, on pouvait changer son pseudo quand on était en discussion avec les gens. Et parfois, en pseudo, je mettais des répliques de films en mode. Ouais, ce film-là, moi je le connais. Et puis c'est les mêmes que tout le monde. C'est nul à chier, enfin. Toi, Aurélien, ton premier souvenir lié au Truman Show?
Eh bien, moi, je me rappelle très bien de l'avoir vu au cinéma. Parce qu'en fait, c'était à l'époque où j'étais à la fac. Donc bon, ça y est, on peut dire, on va redire, je suis vieux.
Alors que Maxence a dit, moi j'avais 3 ans.
Ouais, bah voilà. Donc j'en avais 8. Voilà, j'étais à la fac à 8 ans.
Ah yes.
Et
donc t'es là, non, aujourd'hui.
Voilà. Et non, en fait, je me souviens que c'était ma première année de fac. Et en fait, j'avais des horaires. C'était la première fois que j'avais des horaires un peu, tu sais, bordéliques. Genre, fallait que j'aille à 8h à 10h. Et après, je devais y aller à 17h et 19h, tu vois. Donc, j'avais souvent des plages horaires où j'avais rien à foutre. Et donc, j'allais beaucoup au cinéma. Et à l'époque, t'avais les séances de midi qui étaient à 10 francs. Ah, ouais. C'était quand même un délire.
Et on était encore en francs.
J'ai connu les francs.
Et donc, j'allais souvent à la séance. Et je me rappelle d'avoir vu, par exemple, Marie à tout prix, d'avoir vu le Truman Show comme ça. Et je me rappelle que j'étais tout seul avec mon sandwich jambon beurre.
Dans le cinéma?
Salle énorme. Ouais,
parce que moi, si je vois un film et que ça sent le jambon beurre, je suis très énervé à côté.
Il n'y avait personne.
Ah, très bien.
Et je me rappelle justement d'avoir eu une expérience un peu particulière parce que l'écran était énorme. C'était vraiment un écran pour voir un film d'action, tu vois. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans le monde de Truman Show, tu vois. J'avais l'impression que j'étais dans son truc,
t'étais
tu vois.
Parce qu'en plus,
t'as des gros plans de sa tête qui sont très réguliers. Et tu sais, il y a ce truc où tu t'arrives des fois pas trop à savoir si. Il a compris, il a pas compris, si les gens ils se foutent de sa gueule ou si c'est le monde réel ou pas. Et en fait, là, en grand écran, sans connaître le film, juste le pitch, tu vois, sans en plus savoir, c'est vrai qu'on en a parlé en antenne qu'à l'époque, la télé-réalité en France c'était balbutiant, il y avait quasiment rien, c'était un peu un truc contre-contexte, oui. C'était trash.
Il y avait déjà le Loft, hein.
Bah, le Loft,
ça venait
c'est 2001, d'arriver. Le Loft.
C'est 2001.
Moi, je me suis fait une réflexion en le revoyant, c'est que je sais pas si ça vient de ce film-là, mais ça a donné des idées. Au télé-réalité. Enfin, ouais. Je sais pas, mais le plan où on voit les gens regarder chez eux, je sais pas si ça avait été déjà fait dans d'autres films, mais on l'a vu venir dans les télé-réalités. Et encore maintenant, il y a eu des sortes de télé-réalités où on voit les gens regarder un écran et faire des commentaires dessus. Tu sais, je me suis fait cette réflexion.
Bah, il y avait déjà Real World, Big Brother et tout, tu vois, aux US, machin. Donc on voyait, je pense qu'il y avait déjà les émissions qu'on voyait sur MTV, quoi, mais il n'y avait jamais vu la production française réelle du truc. Donc c'était un peu comme si on voyait une critique d'un truc qui pour nous n'était pas existant pour l'instant, en fait. Donc c'était un peu bizarre comme truc.
Et surtout, ce qui était avant-gardiste aussi, c'est que dans le film, tu le disais, Maxence, il y a des supporters, entre guillemets, il y a des gens qui ont des coussins chez eux avec la tête de Truman dessus. Qui
moi, c'est le mec dans la baignoire, il m'a toujours marqué. Ouais. C'est le mec dans la baignoire, je savais ce plan-là, je le connais par cœur. Ouais. Tu sais, je l'ai vu et c'était comme si je voyais mon daron, quoi, je te jure.
Mais du coup, c'est la réalité qui rejoint la fiction, parce que quand le Loft est arrivé en 2001 en France, moi j'ai vraiment ce souvenir où c'était la folie, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'était une vraie folie.
C'était la folie, et tellement la folie qu'il y avait des gens qui étaient allés manifester devant M6, qui avaient cassé les vitrines, etc.
Ouais,
de la chaîne.
Dedans,
pour dire, non, mais pour dire stop, c'est suffisant, c'est de la télé poubelle, etc. Ouais. Alors que maintenant c'est devenu juste normal.
Classique.
Comme fait le personnage féminin dans Truman Show, qui en gros milite pour qu'il n'y ait plus de télé-réalité, exactement. Quoi.
Moi, je sais que j'ai vu, alors je sais pas si on allait en parler, mais j'ai vu Jim Carrey qui a parlé de ce que deviendrait Truman en 2020, et il a dit cette phrase qu'on est tous un peu Truman avec nos réseaux sociaux, etc., etc. Je trouvais ça peu bateau, un peu cliché.
C'est ton nouveau statut Facebook, non?
Exactement.
Non, mais ça rejoint un peu ce qu'il avait dit.
J'ai trouvé ça un peu facile, mais bon, dans c'est vrai, on comprend. Mais je trouve ça cool, ce côté un peu avant-gardiste, comme tu le disais, de ce film-là, qui à l'époque n'était pas du tout parlant, je pense, pour les gens. Et c'est vrai que maintenant, après réflexion, t'as quand même un autre œil quand tu vois ce film-là, et t'as l'impression que c'est un peu comme quand on demandait à des enfants t'imagines comment les années 2000, tu vois, t'as l'impression que c'est un peu
ouais,
ça.
C'est vrai.
C'est un peu ce petit effet là, je trouve. C'est une manière grossière de créer de la télé-réalité un peu, tu vois, avec comme quand à l'époque on imaginait que les téléphones du futur, oui, ils auraient pas de fil, mais en fait c'était des trucs énormes, tu vois. Je trouve ça marrant.
Mais ce qu'a dit Jim Carrey, finalement, ça rejoint un peu ce qu'avait dit aussi Andy Warhol quand il disait que plus tard chacun aura son 15 secondes de célébrité.
Ouais, grave. Je crois que c'était 15 minutes, c'est 15 secondes en fait.
Ah, c'est 15 minutes. Non, 15 minutes, t'as raison, c'est pas 15 secondes.
C'est
mais non, mais aujourd'hui, il y en a qui ont juste 15 secondes aujourd'hui.
Bah oui.
Il y en a qui ont 3 secondes.
Ouais, c'est vrai.
C'est la phrase updatée de.
Tu as droit à moins de 15 sous-secondes.
Quand même, attends, tu dois répartir ça sur 7 milliards d'habitants, c'est compliqué quand même.
Ouais, c'est vrai.
C'est compliqué. Moi, mon premier souvenir du film, je crois que je l'ai vu assez tard. Il y a beaucoup de gens qui me disaient faut que tu regardes Truman Show, faut que tu regardes Truman Show.
Toujours ces potes-là.
Bah oui, exactement.
Ceux qui font des statues là.
Moi, c'est Sofiane. Un de ces potes-là, justement, c'est Sofiane.
Ah ouais,
il m'a grave éduqué sur.
Mais tu vois, ça devient de plus en plus compliqué, je trouve. Aujourd'hui, les gens disent ouais, faut que tu regardes cette série ou alors faut que tu regardes ce film. Et en général, rares sont les gens qui après vont le voir. Et c'est toujours une vraie satisfaction personnelle quand finalement la personne est allée voir le film ou la série. Et forcément, comme tout le monde, j'ai aimé et j'ai revu le film il y a deux jours pour préparer le podcast. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, et j'ai été vraiment marqué par la prestation de Laura Linney, qui joue la femme de Jim Carrey dans le film. Elle joue extrêmement bien.
Carrément.
C'était assez impressionnant. Et aussi, ce qui m'a marqué avec un peu plus de recul, parce que moi, j'ai dû voir le film en 2002-2003, un truc comme ça.
Ça va.
Il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux à l'époque. 2004, il y avait quoi? Il y avait Fudge World, MySpace.
Ah, MySpace.
MySpace.
Le début de MySpace.
Skyblog,
Makeout
non
Club. Skyblog, ouais, Skyblog. Caramel,
quoi, ma gueule, quoi ma gueule.
Ouais, voilà, mais il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux.
Ouais, t'inquiète.
Quoi, ma gueule? Miss 34,
c'est quoi,
vous avez connu
quoi, ma gueule?
Miss 34. Miss 34, vous connaissez pas?
Non, je connais pas.
Alors, c'est que dans le sud alors.
C'est que dans le sud.
Non, mais je crois vraiment.
Internet n'allait pas au-delà du sud.
Je crois vraiment que c'était que dans le sud, parce qu'en plus, 34, c'est le nom de département de l'Hérault.
Genre Mistral, quoi.
Non, mais vraiment, c'était un MySpace, mais.
Que pour les 34.
Non, c'était hyper avant-gardien.
MySpace de l'Hérault. Qu'est-ce que c'est?
Et non, et en fait, avec le recul, ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est que avant tout le monde, il parlait de cette absence de pudeur qu'on peut voir aujourd'hui sur Insta, tout ça. Aujourd'hui, les gens montrent leur vie. Et finalement, c'est ce qu'on voit dans Truman Show. C'est-à-dire qu'on voit toute la vie de Truman, ce qui pouvait paraître assez incroyable en 1998 et qui ne l'est plus forcément aujourd'hui.
Et tu vois, ce que tu disais tout à l'heure en antenne, c'est évidemment, on sait qu'on a vu sa naissance. On a vu, par exemple, le jour où il a passé la fac, le jour où il s'est marié, etc. Tout ça, c'est le jour intéressant. Mais tu disais, il y a vraiment des jours où il n'y avait rien à voir sur cette télé-réalité.
C'est pour ça que dans le
film, il faisait sa vie normale. Sauf que maintenant, tu peux voir des vidéos vlog sur YouTube de meufs qui se disent « aujourd'hui, on va se balader, après on ira au McDo. »
les photos des gens qui prennent leur plat en photo. Quoi. Finalement, c'est aussi chiant qu'une journée de Truman qui bouffe de l'avocat à midi. Quoi,
en fait, tout se rejoint, c'est ça.
Mais à un moment dans le film, Christophe, le réalisateur, dit... Il y a un waiting screen en gros parce qu'ils savent pas trop où il est. Et il dit mais on est en train de battre toutes les audiences là avec cet écran, on va pas le virer. Enfin tu vois, oui les gens.
C'est ça.
C'est le suspense et à l'attente de, il va se passer un truc de fou. Quoi.
Mais du coup au final les gens vont y rester scotchés alors qu'il se passe rien.
C'est vrai que le Truman de maintenant, ça y serait. Eh la commu, alors qu'est-ce qu'on pense du ménage? voilà.
Triste.
Ça serait ça.
Alors j'aimerais revenir sur Jim Carrey parce que dans ce film il montre pour la première fois de sa carrière un jeu d'acteur différent, beaucoup plus profond. The Truman Show, ça arrive après 3 années intenses qu'ils l'ont vu tourner dans 7 films: Ace Ventura, Détective Chien et Chat, The Mask, Dumb and Dumber, Batman Forever, Ace Ventura en Afrique, Disjoncté et enfin le très bon Menteur Menteur. Et dans ces 7 films, il faisait du Jim Carrey à fond. The Truman Show marque un changement dans son jeu que l'on retrouvera de manière différente dans Eternal Sunshine 6 ans plus tard. À quel niveau vous le placez, Jim Carrey, dans l'histoire du cinéma, vous, Maxence?
Moi, comme je le disais, mais j'ai l'impression d'être tellement un cliché ambulant en disant ça. Pour moi, il est légendaire, disons. Enfin, je pense qu'il a inspiré tellement de gens et il continue à en inspirer tant. C'est un hybride parfait, tu vois ce que je veux dire, si je peux employer ces termes-là. C'est le mec qui joue, qui te fait autant pleurer que mourir de rire. Et puis il a tellement ce côté, je comprends que enfant j'ai kiffé ces films là, tu vois, il a tellement ce côté cartoon que t'as envie de moi justement je pense que Truman Show, tu le montres à un enfant, il comprend quand même et ça le fait, enfin tu vois ce que je veux dire, même s'il a pas les clés de tout. Et je pense que dans ces films là, excepté peut-être Eternal Sunshine, Spotless Mind, mais ces films là en général, je pense que même si t'as pas les clés de tout comprendre, juste le fait de le voir, t'as envie de rire et t'as envie de...
Mais c'est intéressant que t'emploies le mot cartoon parce que finalement, c'est ce qu'il définit bien et aussi l'autre acteur qui pourrait être un peu cartoon comme ça dans mon esprit, c'est Robin Williams, mais j'en vois pas vraiment beaucoup. Tu vois.
Ouais, non, mais totalement. C'est mais pour
si
ça que je dis.
Si je pose cette question, pardon, si je pose cette question sur Jim Carrey, c'est parce que j'ai l'impression que c'est un, je dis pas que c'est un acteur sous-coté, mais quand on pense à Jim Carrey, on pense à ses grimaces dans Ace Ventura, on pense à ses grimaces dans The Mask, mais on pense moins au Jim Carrey profond qu'on a pu voir dans Truman Show et encore plus dans Eternal Sunshine. Et des années plus tard, je me demande encore comment il a pu ne pas avoir de nomination aux Oscars pour sa prestation. Tu voulais dire, Guillaume ?
Là, quand tu venais de citer tous ces films, tu sais, souvent, on parle de ciné, tous les trois, et on se dit ah, vous avez vu ce film de ce mec et tout. Et il y a toujours, même les grands, tu vois, il y a toujours un film où on se dit ah non, celui-là, il est un peu obscur, je ne l'ai pas vu, etc. Et là, quand tu citais tout ça.
Tout vu. Hein.
En réalité, on a tout vu, en fait.
Même Man on the Moon et tout, là.
Ouais, enfin, on les a tous vus.
Quasiment tous les
Jim Carrey. J'ai même vu le Noël de Monsieur Scrooge. Où il fait Monsieur Scrooge en 3D.
Il fait plein de personnages différents.
Ouais, exactement. Et non, mais en fait, c'est impressionnant de se dire. En fait, c'est, moi, je sais pas où, quel niveau je le place, mais je sais qu'il a accompagné ma vie sans que je m'en rende compte, en fait.
En vrai, je trouve que l'analogie de JB, elle est bien avec Robin Williams, j'y pensais aussi. Je pense que c'est pareil, c'est des acteurs qui sont quand même assez sous-cotés. Quand tu parles du meilleur acteur, tu vois, possible, franchement, ils sortent jamais. Jim Carrey, Robin
Williams,
on n'en parle absolument jamais.
Moi, pourtant,
alors qu'en vrai, ils ont des
j'ai pas
mal
cette
de
sensation,
films qui
sont forts. J'ai justement l'impression qu'il est très souvent cité. J'ai pas le côté sous-côté, alors peut-être que tu parles de récompense.
Voilà, il est cité, mais il n'est pas récompensé.
Non, mais tu vois, par exemple, quand on va parler de grands acteurs, on va dire, bon, il y a toujours De Niro, Pacino qui reviennent, il y a aussi Daniel Day-Lewis, il y a Gene Hackman, il y a Dustin Hoffman. Tu vois, il y a ces acteurs-là qui ont fait des films vraiment intenses, etc. Mais on dit moins souvent Jim Carrey.
C'est vrai. Bah, mais c'est peut-être le côté cartoon qui est...
Bah oui.
Ok, bon, il fait des films un peu plus enfantins.
C'est
enfin,
les
tu comédies, sais, peut-être
ouais,
que
le côté comédie, de toute façon.
Les gens qui oublient un peu que ça les a quand même marqués et qui préfèrent...
Et qui pensent que c'est facile aussi.
Ouais, voilà, ouais. Bien sûr. Ouais.
Alors que The Mask, je ne sais pas qui tu mets à la place de Jim Carrey dans The Mask.
Et vrai. Surtout... Non,
incroyable, même ses sketchs au SNL.
Exact, bah, j'allais en parler.
C'est dingue.
Il a un sketch dans le SNL, c'est pas le SNL, mais c'est à l'époque où il faisait ce show dont j'ai oublié le nom avec Jimmy Fox, Living... Living Color, je crois.
Ah ouais, Living Color, ouais.
C'est ça le titre. Ouais, ça ressemble à ça. Il y a Living et Color, je crois, dans le titre. J'ai oublié, pardon. Excusez-moi. Mais en gros, il a un sketch où il parodie la chanson Informer.
Ouais.
De la chanson de Informer.
De Snow.
Snow. Snow, voilà, Snow Informer. Et c'est tellement drôle. Je vous conseille de taper Snow Informer Jim Carrey sur YouTube. C'est vraiment très drôle.
Moi, vraiment, fait marquant et qui m'a, je pense, aussi aidé à me passionner, c'est que. Quand j'étais petit, on a eu l'ordinateur familial, tu vois, je l'ai eu un peu tôt. En vrai, on avait 5 ans, j'avais déjà internet, tout ça, mais...
T'allais chauffer les meufs du 34 et tout.
Non, et en gros, mon père, il nous ramenait genre des petites vidéos, tu sais, que si tu voulais télécharger, ça te mettait 3 heures, et ça te coûtait je sais pas combien. Et on avait le sketch du Saturday Night Live sur la musique de What Is Love, tu sais.
Oui,
ouais, en voiture.
Ils sont en voiture, ouais. C'est avec Ferrell, non
ouais. Oui, si, je crois, il y a Ferrell dedans.
Et, ouais. Oui, il me semble.
Bon, il y en a 3 en fait.
Oui, il y en a 3. Et j'ai oublié, bref, la troisième personne. Et je le matais en boucle. Et quand t'es enfant, ça te fait rire, même si pareil, je comprenais pas ce qui se passait. J'ai compris plus tard les vannes et tout, enfin, évidemment avec les dialogues, je les comprenais pas. Mais il y avait ce côté cartoon dans son visage, dans la manière de bouger. Et tu sais, je pense que vraiment, il traverse toutes les générations. Et c'est ça, sa force aussi. C'est qu'il arrivera juste dans son jeu, sans langage, à créer des émotions, quoi. À n'importe quel âge, n'importe quelle langue, enfin. Ça fabuleux, quoi.
Je suis assez d'accord et je pense aussi que l'analogie avec Robin Williams, ça va plus loin parce que maintenant, on le voit, Jim Carrey, c'est plus du tout une sorte de... C'est devenu un vieux sage à barbe qui fait de la peinture, qui a plein de grandes théories sur la vie, etc. Donc, je sais pas s'il est dépressif ou en tout cas, il a l'air...
Il a eu une dépression, très dégoûté
du milieu, etc. Et il y a quand même un truc où, sur les interviews de fin de vie de Robin Williams, c'est un peu la même chose, tu sais. Ce mec qui est un peu... qui a fait des grands comiques, qui a joué Popeye, etc.
C'est un clown triste, en gros, ce que tu essaies de nous dire.
Comme Alice Moon, quoi. Voilà, merci.
Ouais, très bien, pourquoi pas.
J'aurais dit oui de finesse, moi. Wow, Alice Moon, le con.
Écoutez les albums d'Alice Moon, vous le saurez.
Incroyable.
Oui, bien sûr.
Bossa Nova, à fond.
Non, mais il dit ça, mais premier degré, il y a des chansons très bien, vraiment.
Ouais, c'est pas si mauvais.
Bon, ah ok.
Non,
bon,
c'est pas si mauvais. Sa bossa nova est pas Maxence, sa bossa nova est pas si mauvaise.
Non, mais premier degré. Non, mais vraiment, il y a un morceau qui est dans ma playlist. Moi.
Ah bah tu vois. Il y a un autre sketch de Jim Carrey qui est très drôle. Et là, je crois que c'est le Saturday Night Live où en gros, il est prof de karaté, je crois, ou d'autodéfense. Et en fait, il doit aider des femmes à se protéger si dans la rue elles sont face à des agresseurs. Et en fait, il file un couteau aux meufs. Et il dit voilà, fais comme si t'avais un agresseur devant, sauf que les meufs le plantent vraiment. Et lui, il continue son sketch alors qu'il a le couteau, parce qu'il veut pas paraître pour un mec faible, tu vois. Et ce sketch est très drôle aussi également, si vous pouvez taper ça sur YouTube. Alors, une des choses au centre de The Truman Show, c'est la place qu'a la télévision dans notre société.
Et, ouais.
Et des films sur la télévision et ses dérives, il y en a eu pas mal, Aurélien.
Oui, en effet. C'était encore une belle mission que tu m'as donnée, JB, de parler de la télévision dans le cinéma. J'ai encore regardé pas loin de 1200 films en premier temps. C'était possible d'en voir beaucoup parce que j'adore ça. Et je pense qu'il y a un premier film dont on peut parler parce que c'est un peu la phase B, on va dire, le pile de la face de Truman Show. C'est Ed TV, en direct de Ed TV en français, je crois. Un film qui sort quelques mois après, je crois. Ça sort en 99, mais vu que Truman Show, c'est fin 98. Je pense vraiment c'est dans un mouchoir de poche. C'est un film de Ron Howard, quand même, le célèbre Ron Howard, mon bon vieux Richie de Happy Days, et qui a fait Willow. Voilà, je dis juste ça.
Et plein de films très cool. On en parle rarement de Ron Howard, mais il a quand même Apollo 13, il a plein de films.
Ouais, il a énormément de bons films. Ouais. Et après, il a des films un peu moins bien. Ouais, il a Splash. Bon, c'est bien, mais bon, c'est, pas ouf.
Splash que j'ai vu pour la première fois il y a 2-3 jours.
Et alors?
Bah, j'ai trouvé ça sympa, mais sur Disney Plus, sur Disney Plus, ils ont rajouté tes cheveux sur son boule et
ouais.
Tout.
Ah, ouais, ouais. C'est le, okay,
c'est bah,
ouais.
C'est le fameux. Bref, c'est un film avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson qui jouent des frères. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait, ils se ressemblent un petit peu.
Ouais.
C'est assez rigolo, alors qu'ils sont pas frères du tout. Et en gros, ça reprend Truman Show, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un monde qui est créé et il sait absolument que c'est pour être filmé toute la journée. Ils viennent chercher les deux frères et ils veulent les filmer 24-24. Alors, bah, c'est leur boulot, tu vois. Ils sont tout à fait contents de ça. Et ils se rendent compte au bout de quelques temps qu'en fait, on s'emmerde. Et donc, bah, ils se retrouvent un peu à créer des histoires entre les deux frères et le fait que, justement, Woody Harrelson trompe sa meuf et tout. Et en bref, ça devient un truc un peu poubelle, quoi, tu vois.
Ouais. Et d'ailleurs, les deux qu'on retrouvera dans Trou Détective, du coup, des années plus tard.
C'est fou, d'ailleurs. Ouais. Parce que là, ils ont vraiment un rôle où c'est un peu, genre... Parce que c'est un peu filmé comme de la télé, vraiment. Enfin, il y a un petit côté qui est un peu crado, même dans le film. Qui est un bon film, mais quand même, quand tu... En fait, il y a eu beaucoup de comparaisons avec Truman Show, et à mon avis, de les mettre côte
surtout
à côte,
un an après.
C'est très compliqué, ouais, en fait. C'est vraiment ça qui est chiant. Mais ça lance quand même le grand truc de la télé-réalité au cinéma. Et est-ce que vous saviez qu'en direct de Ed TV, en fait, c'était un remake?
Non, je savais pas.
D'un film. Et alors, je vous le donne en mille. C'est un remake d'un film.
Si c'est un remake de Truman Show, c'est relou.
Je savais pas qu'on disait remake, par contre.
Moi, je dis remake.
Après.
Remake. Moi, je dis remake. Non, c'était un remake d'un film québécois, un film de Michel Poulette qui s'appelle Louis XIX, le roi des ondes.
Ah ben,
et en fait, qui est sorti en 1994.
Maxence, je le savais.
Et en 1994, c'est un film qui a bien fonctionné et qui a cartonné. C'est un mec qui était passionné de télévision. Et en gros, il y a une chaîne qui vient le voir et qui lui dit « Bah, t'as gagné un grand concours et on va te filmer pendant 24 heures. » Donc au début, il est super fan, il fait plein de trucs, il fait des placements de produits, machin. Enfin, vraiment tout ce qu'on a vu dans tous les films après du même genre. Et puis au bout de quelques temps, il se rend compte qu'en fait, bah, il peut rien faire de normal, qu'on essaie de lui refourguer des trucs et en fait, sa vie, elle a plus aucun sens. Donc c'est vraiment la base de Ed TV et c'est vraiment, enfin c'est le même scénario, c'est marqué Michel Poulette et les scénarios dans le truc de Ed TV, c'est ça qui est assez drôle. Et est-ce que vous savez quelle était la toute première, enfin plus ou moins, télé-réalité du monde?
C'était aux États-Unis.
C'était aux États-Unis.
Bah, c'est pas
Big Brother, justement.
Eh bien non, c'est bien bien avant.
Quelle année?
1973.
What?
Wow.
C'est officiellement la première télé-réalité?
En tout cas, c'est la première série qui est vraiment réelle. Après, il y a des documentaires. Okay,
attends,
tu vois.
Ça peut peut-être m'aider. T'avais quel âge?
J'avais moins 6.
Okay. Ben, je sais pas.
Alors, c'est une série qui est développée pour la chaîne PBS en 72, diffusée en 73, qui s'appelle The American Family. Et le concept, c'était d'aller dans une famille qui habite à Santa Barbara et de la filmer au jour le jour. Ils vont faire plus de 500 heures de rush dans sa vie tous les jours, et ils vont suivre chaque personne de la famille. En tout, je crois, ils sont 7. Il y a 5 enfants et il y a des parents, et ils vont suivre un peu leur quotidien. Et le but, c'était vraiment de faire comme un vrai documentaire. C'était un peu le délire du cinéma vérité de l'époque. C'est-à-dire de faire quelque chose qui est à la fois un petit peu dans une ambiance de cinéma, donc avec des plans filmés proprement et tout ça, avec de la vraie réalisation, mais en même temps, réel. Pas de personnages, pas d'acting, etc. Sauf que bah, ils se sont rendus compte aussi qu'il se passait pas grand chose. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils filmaient au bout de leurs 500 heures, là, il s'est avéré qu'il y a eu friction dans la famille. Et il s'est avéré que cette première saison de 12 épisodes, c'est finalement, en fait.
Fini par un meurtre.
Non, c'était un documentaire sur le divorce, en fait.
Ah ouais!
Et à l'époque, c'était quasiment un truc nouveau, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure que tu regardais les épisodes, tu voyais la famille exploser.
Ils ont réussi à créer un intérêt.
Ouais, final, et c'est devenu des méga stars en fait. Ils s'appellent la famille Loud.
Bah, finalement, c'est un peu comme Tiger King, parce que Tiger King, il filme une télé-réalité. Mais à l'intérieur, il se passe plein de nouveaux trucs qui font que ça devient une.
Exactement. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe avec les Kardashians aussi, bien des années plus tard, où elles ont créé. Toute la famille a créé un empire.
Tu dois être heureux quand même, tu sais, quand t'es à l'instant T là et qu'il se passe ces trucs, tu dis, mais.
C'est fou.
Un meurtre, ça aurait été mieux.
Oui, voilà.
Mais attends, parce que c'est ça qui est fou, justement.
Limite, tu pousses un peu le truc, tu dis. Vous voulez pas vous engrainer un peu plus là?
C'est vrai que ce serait dingue. Mais en gros, justement, il y a un film qui est sorti en 2011 qui s'appelle Cinéma Vérité. Donc, tu vois, c'était pour ça que je voulais sortir ce truc. Qui est un film qui est sorti sur HBO. Donc, c'est marrant parce que c'est un film télé finalement, mais qui a vraiment une ambition de cinéma qui parle de la réalisation de cette série. The American Family. Et c'est un film avec des vrais gros acteurs. C'est Tim Robbins qui joue le père de famille, le père Loud. Il y a Diane Lane qui joue la femme. Thomas Dekker qui joue un peu le personnage principal, Lance, dont on va reparler, Lance Loud, qui va être un peu un fil rouge pendant des années pour les Américains. Et il y a James Gandolfini dans un de ses presque derniers rôles, donc Tony Soprano, qui joue le réalisateur, en fait, le réalisateur de la série. Donc hyper cool. Et en fait, je vous parle de ça car. Cette première télé-réalité, ça va être la base d'un film que j'ai adoré, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui est Real Life de Albert Brooks. Albert Brooks, j'ai envie que ce soit mon fil rouge. Albert Brooks, c'est vraiment le mec que j'ai découvert là, ces derniers temps, qui est méga drôle. Et son tout premier film qui sort en 1979, c'est un film qui se moque en fait de The American Family. Donc en gros, c'est un mockumentary, donc un faux documentaire. D'un mec qui s'appelle Albert Brooks, qui est donc un réalisateur et qui veut faire sa propre télé-réalité. Sauf que lui, il a inventé une sorte de caméra numérique, qui est un casque Star Wars, que tu mets et en gros, les gens se baladent avec et ça capte pas uniquement les images, ça capte leurs émotions sur des cartes mères. Et en gros, il veut faire un film à partir de ça, quoi. Et en fait, le film, c'est un documentaire sur le film qu'il essaie de créer, qui est censé être la real life. Bien sûr, rien ne se passe comme prévu. C'est de l'inception à l'intérieur de l'inception. Albert Brooks, c'est un personnage dont on parlera assez régulièrement, rien que pour vous dire, il s'appelle à la base Albert Einstein et il s'est fait appeler Albert Brooks parce qu'il trouvait qu'Albert Einstein, ça faisait un petit peu trop intelligent. Il disait qu'Albert Einstein avait changé son nom parce qu'il était trop intelligent. Bref, je vous recommande à fond de voir une partie de The American Family et Real Life, ce superbe film de Albert Brooks. Mais pourquoi je vous ai parlé de Lance Loud juste avant? C'est que en 2000, Lance Loud, qui était donc le personnage le plus principal, on va dire, qui avait annoncé qu'il était gay à la télévision nationale quand même, en 73, s'est retrouvé à être un peu en breakdown. Il a été addict à plein de drogues différentes. En fait, il a contracté le virus du sida. Et en 2000, il a demandé aux mêmes équipes de revenir filmer ses derniers jours avant sa mort. Et en gros, ils ont refait une séance documentaire qui dure 10 épisodes, qui sont en fait les derniers jours de la vie de Lance Loud avec sa famille avant de mourir, tu vois. Donc là, il est vraiment dans le truc de la série, là, genre vraiment, il filme la mort en fait. Enfin, tu vois, les derniers jours de. Et c'est lui qui a demandé en fait.
Le dernier épisode, c'est quoi?
Il meurt.
Non.
Et après, ils ont dit que ce serait le dernier épisode qu'il ferait jamais sur la famille Lance. La famille Loud, pardon. Donc ça, c'est un truc de fou.
Dingue.
Et en fait, c'est un peu le même concept d'un film. Très français, qui s'appelle La mort en direct. Je sais pas si vous connaissez ce film. Un film de Bertrand Tavernier qui sort en 1980 et qui est hyper précurseur. C'est avec Romy Schneider qui se fait filmer par Harvey Keitel, qui s'est mis des caméras dans les yeux pour filmer Romy Schneider. C'est dans un futur. Et Romy Schneider a une maladie incurable et en fait, plus personne n'est malade en fait. Donc la mort est devenue une donnée très rare et palpable. Et en gros, Harvey Keitel va passer son temps à filmer à son insu Romy Schneider dans un show télévisé qui va être archi-produit dans sa course à la mort, en fait. Tu vois.
Wow.
Donc il y a tout dedans, en fait. Il y a tout ce que. Il y a trop de trucs. En plus, c'est un des derniers films de Romy Schneider dans lequel on le voit avec son fils. Genre, le film sort en 80, elle meurt en 82, je crois. Il y a une grosse histoire avec son fils. Enfin, bref, c'est un film qui cristallise énormément de choses. C'est hyper bien réalisé vu que c'est Tavernier. Il y a aussi Harvey Dean Stanton dedans qui joue le producteur du film. Enfin, bref, c'est un film de fou, vraiment. Dans le genre télé-réalité, je pense que c'est vraiment un film à voir. Et je me suis dit. Quitte à rester dans le français, passons du côté des jeux, mais restons toujours dans la mort, avec un film sorti en 1983 qui s'appelle Le Prix du Danger. Connaissez-vous ce film ?
Oui, parce que c'est avec Michel Piccoli qui vient de nous quitter.
Ah bah oui.
Exactement. C'est un film de Yves Boisset avec Gérard Lanvin et Michel Piccoli. Et Gérard Lanvin est un mec qui joue à un jeu donc télévisé, présenté par Michel Piccoli. Et le jeu, c'est genre, tu gagnes $1 million si tu arrives à survivre à une semaine avec une dizaine de mecs qui te poursuivent dans la rue pour essayer de te buter. Voilà, avec des flingues.
Pas mal.
Qui est en fait, plus ou moins le scénario.
Est-ce qu'on accepte
de...
autour de cette table s'il y a un jeu?
C'est combien la prime?
$1 million.
Un million.
Ouais, c'est pas ouf, un million.
Un million, une semaine.
Ça, ouais. Après, c'était en 80, tu vois. Donc là, ce serait peut-être, je sais pas, $10 million, tu vois.
10 millions, pourquoi pas?
Et ouais, le but, c'est
si
rester en vie.
Si tu rates, tu te défonces.
T'engages des mercenaires, à la limite.
Ah, t'as le droit de faire ça ou pas?
Non, je crois pas. Enfin, en tout cas, lui, il le fait.
C'est dans les clauses du contrat, le live.
Après, c'est Gérard Lanvin, tu vois. C'est Gérard Lanvin, il est chaud, il fait le mec tendu et tout ça. Mais en fait, c'est le même concept qu'un film que, à mon avis, vous connaissez très bien, qui est un film avec Arnold Schwarzenegger, qui sort en 1987, réalisé par Starsky de Starsky Hutch, qui s'appelle The Running Man.
C'est réalisé par Starsky de Starsky Hutch.
Ouais,
je savais pas. Ça. Ouais.
Paul Michael Gleason, c'est un de ses
seuls. Mais je savais pas que c'était lui.
Et en gros, Starsky, un de ses seuls films, un de ses seuls faits d'armes, c'est The Running Man.
Mais il est trop bien ce film.
Qui est donc un film qui a été fait quasiment pour Schwarzy, mais qui est passé sur la même histoire que Le Prix du Danger, une vieille nouvelle de science-fiction qui est sortie dans les années 50. Que Stephen King a repris et a fait un bouquin qui s'appelle The Running Man, et après ils en ont fait un film. Mais ce que j'ai appris là en étudiant tout ça, c'est que l'équipe du Prix du Danger a attaqué Starsky, ce pauvre Starsky, dans les années 90, en lui disant qu'il y avait plagiat en fait.
Mais tu sais que c'est aussi arrivé avec Maman, j'ai raté l'avion. Il y a un film français qui a été tourné, et ceux qui ont fait ce film français, qui racontait à peu près la même chose, ont attaqué, je crois que c'est La Fox qui a fait Home Alone.
Ouais.
Et voilà.
Ils ont gagné ?
Tu connais l'issue ?
Non, ils n'ont pas gagné.
Ah. Alors que le Prix du Danger a gagné. Et apparemment, Starsky a toujours de la thune.
Le film dont je parlais, c'est un gamin qui fête Noël, qui se retrouve tout seul. Et le Père Noël veut le kidnapper ou le tuer. Il fait plein de pièges pour le Père Noël. Donc ça ressemble quand même pas mal parce qu'on a un enfant tout seul chez lui qui fait des pièges.
Le soir de Noël.
Ah. Voilà, le soir de Noël. Voilà. Donc ça ressemble un petit peu quand même.
Le Père Noël, c'est censé être le vrai Père Noël ?
Non.
Parce que sinon, c'est bien badant.
Effectivement.
Avec sa pelle. Ouais, c'est...
En fait, on apprend que c'est un énorme enculé. Bon.
Et c'est vrai.
Il y a aussi un film d'horreur qui s'appelle Le Père Noël Tueur, pas Bad Santa.
Bad Santa, c'est un bon film aussi. Ça digresse. Mais j'allais revenir sur Running Man. Savez-vous que le présentateur de Running Man, donc qui est un peu le même présentateur que Piccoli, qui est un peu fou.
Qui joue bien l'enculé dans le film.
Qui est dans Running Man ?
Ouais.
Et bah dis-toi que c'est un vrai présentateur.
Ah bon ?
C'est un mec qui a présenté La Famille en Or pendant plus de 25 ans aux US. Et alors, vous savez c'est quoi son petit surnom à cet homme que je vais respecter quand même, qui s'appelle Richard Dawson, qui est donc le vrai présentateur de La Famille en Or aux US. Il a un surnom aux US parce qu'il a un peu... il a une habitude un peu bizarre, on va dire.
Vas-y, dis-nous.
L'embrasseur.
Exactement. Yes. On l'appelle The Kissing Bandit.
Tu savais ça ?
Je savais qu'il y avait. J'ai vu des vidéos traîner d'un mec qui embrasse des candidates.
C'est ça.
C'est ce gars-là.
Ouais. Okay. C'est The Kissing Bandit. Donc c'est le mec qui présente. Ouais. Donc
je t'attendais pas à ce que quelqu'un réponde autour de la table.
Franchement, j'y croyais.
Je dis l'embrasseur. Dans...
Non, mais c'est ça. En gros, The Kissing Bandit, c'est ça parce qu'il y a eu des problèmes même avec la chaîne qui lui a demandé.
Il y a des mineurs, non, dans l'histoire.
En fait, il embrassait toutes les femmes sur la bouche, même les vieilles, pour leur donner chance, en fait. Mais c'est en mode genre ma mère, elle me faisait ça, tu vois. C'est en pote, c'est pas, tu vois.
Mais c'est une bonne technique.
C'est le premier Weinstein.
À l'Elvis un peu.
En vrai, Elvis faisait ça. C'est hardcore. C'est Me Too 12 000.
Parfois, dans les films, on voit les mères qu'embrassent sur la bouche leur enfant. Perso, j'ai jamais fait ça avec ma mère.
Pas question. Il considérait que c'était un peu dans la même logique.
Okay, d'accord.
Il y a des vidéos, si vous regardez sur YouTube, il y a la vidéo où, genre, l'année 80, il a embrassé 200 candidates.
Ça marche quand t'es à la télé, parce que quand t'es dans un bar et que tu dis ça, ça marche pas.
Non, mais dis-toi que la chaîne.
C'est pas ce qu'elle fait, Hanouna. Il s'était fait reprendre, Hanouna, mais c'était pas sur la bouche, c'était sur le.
Ah ouais ?
Il avait forcé une meuf à l'embrasser.
Non, mais les gars, c'est terrible, hein. Il y a pas si longtemps, encore hier soir, j'ai regardé des extraits de Apprendre où elle est, d'il y a 10 ans, avec Arthur.
Comment t'es mené à regarder ça d'un coup ?
Parce que, en fait, l'émission est revenue. L'émission est revenue, là, sur, en ce moment, là, à la télé, justement animée par Hanouna. Et ça m'a donné envie de revoir des vieux extraits, tu vois, par nostalgie. Et j'ai vu des trucs. Il y a une candidate.
Tu aimes le Big Deal, toi.
Hein ?
Tu aimes le Big Deal, toi.
Je suis un gros fan.
Ouais, c'est vrai.
Ramucho, etc.
Non, mais c'est vrai, en plus, je dis ça au premier degré. Je sais que t'aimes le Big Deal.
Ah oui, c'est ouf. J'ai une très grosse culture télé, pour le coup. Le ciné, c'est un peu moins ça, mais si tu faisais un podcast sur la télé, je serais chroniqueur. Non, et en vrai, donc t'as Arthur, il y a une candidate qui arrive. Déjà, il lui met la main autour de l'épaule. Ouais. Il la prend comme une princesse. Et il fait oula oula, c'est une fosse maigre, oula oula. En fait, en fait, je vous jure les gars. Et en fait, c'est une gothique. Elle a un tatouage dans le dos. Il lui tire les cheveux, genre violemment. Il fait ah, c'est horrible ton tatouage. Il fait des trucs comme ça. Et je vous jure, et on s'en, il, et on a oublié, mais les candidates, il les massait. Enfin,
ouais,
c'était.
Ça va être un régal les commentaires sous la vidéo.
Désactivé, je crois.
Ah bah oui, bah.
Et encore, j'ai vu 2 minutes d'un extrait, tu vois. Et je sais qu'il y a encore quelques temps, on trouvait ça.
Enfin, c'est ouf, pas, hein.
Moi, je me souviens, je vais taper des barres, mais... je crois qu'il faisait ça. Non, je rigole, c'est pas vrai.
Non, mais et c'est dingue.
Ah, j'imagine, pour remettre dans le contexte, pour remettre dans l'histoire et tout, là, l'embrasseur, machin, ouais. Kissing Bandit, à un moment, la chaîne, ils lui ont demandé d'arrêter. Il a dit bah non et tout, c'est relou. Et au bout de.
Il a dit comme ça.
Genre,
au début des années 80, elle a carrément fait un sondage auprès du public, tu vois, pour savoir si oui ou non il devait arrêter, tu vois, et si ça dérangeait les gens. Il y a eu 200 000 personnes qui ont répondu, 80% qui ont dit non, vas-y, continue.
Waouh.
En 85, tu vois.
Ouais, c'était l'époque.
Et donc il a arrêté en 85 et on l'appelle The Kissing Bandit et il est dans The Running Man. Voilà! Et sinon.
Sinon, Jim Carrey.
Ouais, j'avoue. En fait, j'en ai encore plein. C'est énorme. Après, j'ai plein de choses aussi sur
les
news.
Tu peux lister les films comme ça de télé.
Et ben, il y a The Quiz Show, par exemple, qui est un film de Robert Redford qui parle d'un jeu qui est totalement truqué. Et j'ai appris que c'était un film. C'était un film réel, en fait. C'est une vérité. C'est un film qui a vraiment existé. Genre, il y a vraiment eu un quiz qui a été totalement truqué. Et ils ont mis en avant un candidat qui plaisait plus au public, ils se sont dit que ça créerait plus d'audimat. Donc ils l'ont fait gagner en fait. Ils ont surtout fait perdre un autre qui gagnait plus mais qui faisait pas d'audimat. C'est quand même assez incroyable. Il y a bien sûr Network, un film de Sidney Lumet qui est un peu la grosse critique de justement la dictature de l'audimat où t'as un présentateur qui pète une durite et qui dit qu'il va se suicider à l'antenne et vu que ça fait énormément d'audimat, bah, il joue, il lui donne un show pour faire un peu tout et n'importe quoi. Et donc ça devient un peu le contenu est entièrement dirigé par le public et ça devient finalement vraiment nimp. Il y a un très bon film que moi j'adore qui s'appelle Broadcast News, qui là on rentre plus dans comment est créée l'actualité et le live en fait télé aux US et où il y a beaucoup plus de dualité entre le divertissement et l'info réelle, tu vois. Et là il y a vachement
d'ailleurs, Network et Broadcast News sont considérés comme les meilleurs films sur la télé.
Franchement il se passe, on voit beaucoup de choses sur les producteurs. Moi c'est un milieu que je connaissais pas, mais comment t'écris tes news en fait, comment tu les amènes, comment tu les présentes, et comment il y a tous les montages pour que ça aille très vite. Et c'est là où j'ai aussi appris que les mecs vraiment étaient à la seconde près, tu vois, genre s'ils devaient raconter 12 secondes en plus, c'était 12 secondes qui coûtaient cher, il fallait vraiment que le montage il soit prêt. Et après tu le regardes, t'as l'impression que les gens ils le prennent comme ça passivement, donc c'est assez fou. Il y a un autre film aussi dont je voulais parler beaucoup qui s'appelle Medium Cool. Je sais pas si vous connaissez ce film.
Non.
C'est un film de 1969 qui est un film assez bizarre qui est entre documentaire avec des faits réels et film de fiction. C'est un film avec Robert Foster qui est un journaliste qui étudie les tensions raciales et les émeutes à cette époque. Et en gros, il découvre que le FBI récupère ces images pour aller arrêter les gens. Et donc il y a tout un délire et en fait on comprend dans le film que finalement il y a une grande partie des images qui sont des images réelles et c'est un propos qui est vrai en fait. Donc on mélange une sorte de documentaire et donc il y a un côté télévisuel et un côté vraiment cinéma.
Ok.
Donc c'est parmi les gros films que je vous recommande de voir et surtout un film avec je voulais dire que Broadcast News c'était avec Albert Brooks quand même, c'était mon fil rouge et voilà, après j'avais plein de trucs sur les late night mais en fait on va faire toute l'émission dessus sinon la télé c'est vraiment très très large quand même.
Ça souvent abordé aussi.
Il y a Slumdog Millionnaire aussi dans notre
et ouais dans les jeux ouais.
C'est un peu basé.
Je l'avais marqué dans les quiz shows tout ça, et dans les jeux il y a plein de trucs autour de ça.
Voilà, je pense que c'est hyper large.
Ouais.
Merci Aurélien.
Mais de rien.
Bravo. Alors, The Truman Show est sorti en 98 et en France, 3 ans plus tard, on a eu le droit à Lost Story qui marquait les débuts de la télé-réalité dans notre pays. Depuis, il y en a eu des tonnes et beaucoup que vous ne connaissez pas. Du coup, on va jouer à un petit jeu. Je vais vous donner des concepts de télé-réalité. Et vous allez devoir me dire s'ils ont existé ou non.
J'adore.
Oui.
Ok. J'ai sillonné sur Internet toute la planète pour récupérer les pires ayant jamais été diffusés. Mais dans l'eau, il y en aura des faux.
Ah.
Donc, on va faire un petit tour de table et on va voir si ces télé-réalités ont existé ou non. Première émission. Une émission de télé-réalité dans laquelle tu dois te piquer avec une seringue et tester de nouvelles drogues. Est-ce que ça a existé ou non ?
Je pense que ça a existé parce que ça peut pas sortir de ta tête.
Ah oui, pourquoi? Je suis pas assez
c'est
débauché.
Pas ton genre.
C'est pas ton genre. Je suis pas un mec de débauche, moi.
Toutes les drogues ne se prennent pas à la seringue.
J'aurais donc bluffé. Alors, pour Guillaume, c'est quoi? C'est oui ou non? Est-ce que ça a existé?
Je pense que oui.
Ça a déjà existé, pour Maxence?
Non.
Non, ça a jamais existé, non. Cette mission télé-réalité?
Si, ça a existé. Il y a moyen.
Eh bien, ça a existé! Eh bien, oui! Bah, Maxence est déçu, mais ça a existé, effectivement. C'était une émission qui s'appelait Spuiten en Slicken. C'est quelle langue ça? Spuiten en Slicken.
C'est hollandais.
Ah, bravo!
C'est
hollandais.
La drogue, c'est la Hollande. Hein,
c'est donc Spuiten en Slicken, ça a existé au début des années 2000 et c'était quand même interdit aux moins de 18 ans.
J'allais dire, c'est pas une émission jeunesse pour le
coup. Non. Et donc, ils testaient des nouvelles. Vous voyez des jeunes qui testaient des nouvelles drogues. Et en plus, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on les voit aussi tester des nouvelles positions sexuelles, des nouvelles pratiques sexuelles.
Et comment légalement tu peux produire ça?
Figure-toi qu'il y a à la grande époque de Jackass, Steve-O, il sortait des DVD solo. Et il a fait un DVD qui s'appelle PHP Save My Life et il s'injecte toutes sortes de choses, donc il s'injecte une méga drogue et tout, et genre il est arraché pendant tout le truc, il veut se suicider, enfin c'est horrible quoi, c'est vraiment le pire DVD pas marrant quoi. C'est, tu sais, au moment où avant il était là, je me suis assis sur des tomates, et après il a fait un DVD, t'es là, je suis complètement défoncé, je me suis
suicidé. C'est le bonus, tu sais.
T'es là, ouais.
C'est le bonus.
Ouais, c'était le DVD bonus.
Je te tape très peu de barres. Je
dis ça en blague, mais...
Et ok, donc.
Légalement, je comprends pas comment tu peux produire ça, quoi.
Guillaume Aurélien, bravo. Maxence, tu peux te refaire sur la deuxième.
J'ai un point, quoi.
Une émission de télé-réalité dans laquelle des pères de famille se filment en train de coucher avec la copine de leur fils.
Quoi?
C'est faux.
Non, ça, c'est pas possible.
Ce serait pas étonnant.
Mais c'est un.
Une émission de télé-réalité dans laquelle des pères de famille se filment en train de coucher avec la copine de leur fils.
C'est faux, mais c'est un scénario de DVD porno, non? C'est ça?
Guillaume, c'est non pour toi?
C'est faux, oui.
Maxence?
J'ai envie de dire que ça existe.
Maxence dit oui. Aurélien?
Non, c'est faux, ça.
Et ben Maxence a encore tort, désolé. Oui, c'est Guillaume et Aurélien qui ont le point. Oui, ça n'existe pas. C'est effectivement un porno que j'ai vu il y a deux semaines.
Techniquement, c'est impossible que tu mettes deux fois.
Non, en fait, ouais, je dois avouer, j'ai vu son historique, c'est pour ça que je...
j'ai vu son historique.
Par contre, oui, mais c'est classique en termes de...
Ok, troisième. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi, ça aurait pu exister.
Mais il y a tellement de trucs qu'on va voir dans ta liste, dans ton quiz.
Troisième, une émission de télé-réalité dans laquelle des mecs se font, sans le savoir, enlevés par des ravisseurs et restent enfermés dans une cave pendant 6 mois avec un gain de 1 million de dollars à celui qui tient le plus moralement et physiquement.
C'est oui.
Ah ouais, ça, j'en ai déjà entendu parler, je crois.
Moi, je dis que c'est oui.
Maxence dit que c'est oui.
Ouais, c'est oui, mais c'est catastrophique, par contre.
Aurélien?
Ouais,
eh bien, c'est faux, allez, là, vous la mettiez comme ça autour de la table, c'est faux.
Ah merde.
Ça n'existe pas.
J'ai juste voulu vous suivre, honnêtement.
Tu te fies
pas comment.
Il y a une télé-réalité où ils sont au courant de rien de ce qui se passe, je sais plus où. Ils en ont parlé justement pendant le fameux. Ah, je devais pas le dire. Bon, le fameux Covid. Pendant le Covid, parce qu'en fait, ils n'étaient pas du tout au courant de l'épidémie mondiale.
Ils
leur ont dit, mais normalement, ils sont censés. C'était le seul truc qu'ils leur ont dit.
Non, en fait, là, dans mon scénario, c'était des mecs qui se faisaient enlever comme ça, tel un kidnapping, qui allaient dans une cave pendant 6 mois.
C'est dangereux un peu.
C'est très dangereux.
C'est un bon scénario. Hein.
Mais c'est pas mal, on a tous envie de voir ça, non?
Ouais. Non, c'est pas possible parce qu'il faudrait qu'ils aient des certificats médicaux, voir s'ils sont pas cardiaques, etc.
Les mecs qui s'injectent de la drogue, là, en télé-réalité, ils s'en battent les couilles. Ok, quatrième. Une émission de télé-réalité dans laquelle des couples à la vie sexuelle monotone se font coacher par un pro du sexe. Au fil des mois, on suit concrètement leur évolution au lit visuellement.
C'est oui.
Pro du sexe.
Ouais.
Il est pro du sexe.
Tu fais quoi dans la vie?
Vraiment, oui.
Je suis pro du sexe.
Qui se considère pro du sexe autour de cette table?
Clairement.
Guillaume, t'es un pro du sexe, toi?
Oui.
Ouais. Maxence, pro du sexe?
Totalement.
Ouais. Vraiment, on est tous des pros du sexe.
C'est dans ma bio Instagram, hein.
C'est vrai, j'ai un amateur
comédien,
du sexe.
Chanteur,
je dirais
pro du sexe.
Je dirais que j'ai un sexe de pro, c'est différent.
Ah, ok, c'est un autre truc. Donc, alors, est-ce que ça existe, cette télé-réalité?
Alors, t'as un pro du sexe qui conseille des couples, c'est ça?
Un pro du sexe qui fait vous devez baiser comme ça, puis après on les voit baiser.
Oui, ça existe.
Ah, on les voit.
Oui. Non, on les voit, après on voit leur évolution. Quand
encore
même.
Une émission jeunesse.
Ouais.
Intéressant, ça. C'est un truc sur
M6. Eh bien, c'est le premier point de Maxence, car
yeah
oui,
c'est après Stéphane Plaza sur M6, ça.
Non, mais c'est vrai. Et c'était également interdit aux moins de 18 ans.
Et t'as des couples qui se jugent, tu sais, ils mettent des notes et tout.
Non, mais c'est quoi
ça? Pas mal, ça.
Ah, tu voyais les trucs?
Non, en fait, à la base, dans l'intro, j'ai regardé un peu les images. Ouais. Missionnaire monotone, vie sexuelle à chier, on peut le dire. Ouais. Et puis après, on les voit, ils tendent des petites levrettes, il y a des trucs qui se passent.
Des vrais gens, quoi.
Ouais, des vrais gens,
C'est incroyable, je sais filmer faire ça.
Bah oui, bah écoute.
Dans quel monde vit-on?
Bah écoute,
en 2020,
Truman Show avait tout prévu.
C'est ça.
Ils avaient un peu envie de faire du porno, je pense.
Cinquième. Une émission de télé-réalité dans laquelle est lâchée une quarantaine d'enfants de 8 ans dans une ville fantôme et ils ont 40 jours pour y survivre.
Eh, c'est non.
Faux.
Ça, c'est non, ça.
Non, c'est faux.
Quoi, il y a beaucoup de 40 là, j'ai pas compris. Une quarantaine d'enfants.
Une quarantaine d'enfants lâchés dans une ville fantôme. Mais une quarantaine d'enfants de 8 ans lâchés dans une ville fantôme. Ils ont 40 jours.
Ok, c'est un piège dans l'écriture. Ouais, il a fait une erreur, il a mis 2 fois 40. C'est faux.
Non, c'est faux.
Eh bien, c'est vrai, allez là!
Non,
c'est une télé-réalité qui s'appelle Kid Nation.
Mais quoi?
C'est une télé-réalité américaine. Ils avaient juste comme aide un docteur et un psychothérapeute. Psychothérapeute.
Qui est pro du sexe.
Psychothérapeute, s'ils avaient besoin de quelque chose, une question.
Mais ville fantôme, j'avais compris, genre ville hantée. J'étais là, c'est vraiment horrible pour eux, quoi. 8 ans.
Bah, avec, quand t'as 8 ans, avec plein de ville fantôme, c'est une ville hantée.
Des loups-garous et des clowns.
Non, ils étaient lâchés comme ça et c'est celui qui réussissait le mieux à survivre durant 40 jours.
Mais ils voulaient faire ça.
Ouais, ouais, les enfants acceptent et les parents acceptent aussi.
Mais 8 ans.
8 ans. C'est de 8 à 15 ans, mais j'ai mis 8 ans pour faire un peu plus d'émotion. Bah écoute, c'est il y avait quand même des petits 8 ans quand même.
Et genre, non, c'est comme Koh-Lanta, il y en a à un moment, il dit j'en peux plus et il sort. Ou
ouais,
genre,
ouais,
il
meurt. Ça. Horrible. Et si il y a des soirs où ça va pas, ils ont à disposition 7 jours sur 7 un docteur et un psychothérapeute.
Et une Game Boy.
Même pas de parents, quoi. Pas de parents qui viennent, non, rien.
Autre télé-réalité, dans laquelle 5 candidats donnent leur sperme à un laboratoire. Leurs 5 spermes sont ensuite insérés dans un ovule. Le propriétaire du sperme le propriétaire du sperme qui gagne la course et qui parvient à faire tomber enceinte la meuf gagne une Porsche.
Je dis que c'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai,
je répète, ils vont tous lâcher leur sperme dans une banque de sperme.
Mais non, mais non.
Tous les spermes sont introduits dans une meuf et celui qui arrive à faire tomber enceinte, on suit la course du sperme en direct.
Non, mais ça c'est pas possible.
Ah non,
si c'est possible. Si c'est possible grâce à un spermomètre.
Non, non, c'est faux.
on suit en direct à un match de foot la course du sperme.
J'avais pas ça.
Et celui qui arrive à avoir le sperme qui introduit l'ovule gagne une Porsche.
C'était l'ADN qui
mais
jouait.
Voilà, c'était en plus plausible.
Non, c'est le sperme, c'est la course du sperme.
Non, c'est faux.
C'est faux.
C'est dommage.
Mais alors... bien, c'est vrai, allez là. Mais oui, ça existe. C'était en 2005 et ça s'appelait Sperm Race. C'est une émission de télé-réalité allemande.
C'est incroyable.
Et pour précision, Endemol en France a voulu le racheter et ça a été refusé par le CSA.
Ah, quand même.
Ah bon,
sympa, voilà. Merci.
Bah, c'est dommage.
Bah oui, c'est dommage.
Tu voyais vraiment les trucs faire la course.
Ouais, en fait, il y a un moyen. Il y avait un film
comme
ça.
Comme une course de billes.
À Le Moment Ici Bébé, on voyait les spermes faire la course. En fait, je sais pas, il y a un moyen de checker quel sperme arrive en premier ou quoi.
Mais il y a des milliers de spermatozoïdes.
Par contre, ce qui est marrant, c'est que tu gagnes une Porsche. Quel rapport? Tu gagnes une Porsche à la fin.
Bah, bonheur.
Mais surtout, la fille, elle gagne quoi?
Mais la fille, oui.
Elle gagne un gosse. Elle gagne un gosse, mon gars.
Oui, c'est ça. Et toi, en fait, t'es pas ton gosse du tout. Après.
Mais attends.
Non, t'es dans ta Porsche tranquille.
Parce que là, c'est vrai qu'on.
C'est bizarre.
On déconne, on pense à la Porsche et au gars, mais la meuf. C'est grave.
Bah oui,
écoute, prête à faire ça.
C'est terrible.
C'est chelou.
C'est terrible ce qui se passe. Ok, il en reste 2.
Alors, un Twingo.
Une télé-réalité.
Horrible.
Dans laquelle 3 hommes doivent réussir à coucher avec une de leurs profs au collège qui était à l'époque un fantasme pour eux.
Ah, oui.
Non.
Aurélien dit oui, Guillaume dit non.
Moi je dis non.
Ouais, ça peut être.
Ouais, c'est des ans de finir là-dessus.
Et bien c'est Guillaume et Maxence qui ont raison.
Ouais.
Non, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Et c'est encore une fois un de mes fantasmes à moi que j'ai voulu placer comme ça dans la télé-réalité.
Moi je voyais bien ce truc-là. Ça,
c'était quoi,
ça
c'était quoi le nom de la
c'est
prof
C'est un bon scénar. Mais...
Madame B, prof de maths 5e, collège
Libertaire. Madame B. Bonjour,
Madame B. Madame B.
Bonjour, Madame B. Point, on va pas citer.
Madame B.
Et enfin la dernière. Écoutez, qui tout double, celui qui a bon maintenant, est le grand gagnant de ce jeu.
Allez.
Une émission de télé-réalité dans laquelle une personne se trouve dans une salle avec 25 hommes. Ça commence très mal, hein. Là vous vous dites ça va être très mal. Mais non, pas du tout. Se retrouve avec 25 hommes et doit retrouver celui qui est son père qu'elle n'a bien évidemment jamais connu.
C'est oui.
Ah ouais, ça c'est forcément possible. Ouais. C'est Jacques Pradel ça.
Maxence.
Tu peux rappeler
une émission de télé-réalité dans laquelle une personne se trouve dans une salle avec 25 hommes et doit retrouver celui qui est son père qu'elle n'a bien évidemment jamais connu.
Grâce à un spermomètre.
C'est oui ou c'est non?
Bah allez, c'est oui.
Et bien, vous avez tous gagné le jeu. Parce que, effectivement, ça existe.
Mais
c'est une émission qui s'appelle Who's Your Daddy aux USA. Et quand tu arrives à savoir qui est ton père, tu gagnes 100 000 dollars.
Ah, mais il y a pire que ça.
C'est cool, hein?
Est-ce que
tu les donnes à ton père après?
Non.
Vous avez jamais vu ce truc au Japon où des mecs doivent reconnaître leur femme en tâtant plein de poitrines de femmes dans des boîtes. En analysant leur vagin, leur pubis et tout.
Mais tu vois, c'est drôle parce qu'on est allé au Japon avec Guillaume et tout le monde là-bas me paraît très poli, très respectueux des règles et tout. Mais par contre, ça part en couille dès que c'est la télé. Ça touche des coins, c'est tout.
C'est ça.
C'est trop bizarre.
Il y a un lâchage, il y a un lâchage extérieur. Ouais, ils sont, c'est pareil sur les bandes dessinées, sur tout le divertissement, c'est
bon,
du
bon. Après, vu tout ce que t'as dit,
les
Occidentaux, on est très bons,
on est pas mal. D'avance aussi.
On est pas mal.
Non, c'est
je crois que le pire, c'est le sperm race.
Non, c'est chelou ça.
C'est fou cette.
Moi, le truc de la drogue, ça m'a pas mal.
Ouais, c'est vrai qu'on est tous choqués.
Il y a combien de saisons de chaque là, parce que sperm race.
Mais en général, ça dure une ou deux saisons. Mais par contre, il y en a une que j'ai pas mis dans le lot, une télé-réalité turque. Et en gros, le concept, c'est que dans une maison, il y a, ça commence par une blague, mais il y a un prêtre, un imam et
un rabbin
et un moine bouddhiste.
C'est une blague.
Et ouais, ça commence par une blague. Et en fait, il y a 10 personnes qui entrent, qui sont athées.
Ah.
Et en fait, le but du jeu, c'est de les convertir à une religion. Et donc, il y en a un qui va dire, ouais, non, ça c'est mieux comme religion, ça c'est mieux comme religion. Et en fait, celui qui ressort avec le plus de convertis.
Bah, c'est la religion officielle du monde.
Bah ouais, pourquoi pas, tu vois. Et du coup, ça a été annulé au bout d'un an parce que ça plaisait pas aux gens de confession musulmane qui trouvaient ça trop.
Ah oui, c'est normal.
Trop choquant, quoi.
Surtout tu gagnes. Je veux bien faire ça, mais je veux gagner une Porsche, tu vois.
Tu vois, je n'ai pas parlé parce que je sentais que ça allait être une sale ambiance.
J'ai une Porsche. Bon, ça, c'est bon.
Ouais. On rigole plus avec la Porsche. Avec l'histoire de la Porsche. Bon, très bien. Dans The Truman Show, il y a un running gag que je trouve très drôle. La vie de Truman Burbank est donc une télé-réalité suivie par des millions de personnes dans le monde, ce qui représente donc des millions de cibles potentielles pour des marques. Ce qui fait qu'au beau milieu d'une discussion avec Truman, sa femme et ses proches placent parfois une petite pub pour une bière ou pour une tondeuse à gazon. Et les placements de produits dans les films, comiques ou non, inventés ou existants, il y en a eu plein, Guillaume.
En effet, il y en a eu plein et c'est un peu comme le sujet d'Aurélien, c'est un vaste sujet dans l'histoire du cinéma puisque ça a commencé dès le début en fait, de l'histoire du cinéma, les placements de produits. Parce qu'on recense le premier placement de produit directement après, un an après l'invention du cinéma en 1896 dans le film Les Laveuses des Frères Lumière, figurez-vous. Où en fait,
ah bon
c'est plus considéré, en fait c'est le premier placement de produit et aussi potentiellement le premier spot de pub parce qu'en fait c'est juste des laveuses qui lavent leur linge, mais on a des plans sur le savon qu'elles utilisent, et en l'occurrence le savon qui s'appelle le Sunlight. Donc c'est considéré comme le premier placement
c'était
de produit.
C'était intentionnel ou
bah, en gros, non, je ne sais pas si c'était intentionnel, mais en fait, comme il y a des plans sur le produit,
du coup, oui, c'est
une marque,
comme...
ils se sont d'accord. Dit, bah, voilà, bah, c'est un film avec un placement de produit. Ouais. En
1896... Et du coup, le producteur n'a même pas pris soin de mettre cette vidéo inclus. Un...
Ouais.
C'est vraiment un bâtard.
Les Frères Lumière,
avec un code
c'est
vraiment des
Et du coup, en fait, dans l'histoire, des plus logiques comme la Volkswagen dans la coccinelle Aston Martin pour James Bond ou les plus inconscientes, comme les Adidas de Bruce Lee dans Le Jeu de la Mort, la sauce Heinz et le Jack Daniel dans Shining, ou alors les journaux Daily Telegraph, Daily Mirror et Daily Mail dans Orange Mécanique, les placements de produits sont partout, mais c'est en 1982 et grâce à deux grandes marques de soda qu'ils vont littéralement exploser. Évidemment, vous avez les marques de soda en tête. En effet, en 1982, Coca-Cola rachète Columbia Pictures, ce qui lui permet de se placer partout et d'asseoir un peu plus son avantage sur son concurrent direct, qui est Pepsi, qui évidemment va riposter en se plaçant dans une multitude d'autres films et même devenir une marque culte. Et quand on pense à Pepsi dans un film, on pense à...
Retour vers le futur.
Oh, yeah. Mais vous êtes cinéphile ou quoi? Ouais. On pense évidemment à Retour vers le futur, dans la trilogie de Retour vers le futur. Et en fait, j'ai une question pour vous. Pourquoi ils ont choisi Pepsi et pas Coca?
Parce que leur phrase d'accroche, c'est un truc sur le futur, non?
Non.
C'est pas New Generation et tout?
Non.
Si, c'est ça en vrai.
Non, c'est pas pour ça.
Je peux même dire dans la suite, parce que c'est vrai. C'est vrai que c'est ça.
Mais c'est, oui, c'est ça, mais c'est pas.
La
c'est
boisson
pas
d'une nouvelle génération, et comme ça se passe dans le futur, je sais pas.
C'est pas pour ça qu'ils ont choisi ça. C'est qu'en fait, ils avaient besoin d'une marque qui a fait évoluer son logo entre 1955 et 1985,
etc. C'est vrai que Coca, ça a jamais changé.
Toujours le même logo. Et c'est ça qui a fait pencher la balance.
Par contre, la bouteille, ils l'ont jamais faite. Hein.
La bouteille de
Pepsi
Perfect.
La bouteille de 2015, là. Ouais.
Bah, ils l'ont fait en props.
Ils l'ont sorti en props,
ouais. Genre en goodies et tout, tu vois.
Et en fait, donc, Retour vers le futur, qui est le premier film à avoir autant recours aux placements de produits, car à l'époque, Universal venait d'ouvrir une branche spécialisée qui a permis une multitude d'apparitions de marques dans le film, comme évidemment Mattel, qui a créé une planche pour l'occasion,
ouais.
L'Overboard, Nike, qui a créé des chaussures pour l'occasion, au lassage automatique, évidemment, la marque DeLorean, bien sûr, les pneus Goodyear pour aller sur la marque DeLorean, Pizza Hut, qui a aussi créé une pizza... Pour l'occasion,
ça me rendait fou, la scène de la petite pizza qui devient grosse.
C'est génial, ça.
Et évidemment, pour faire hydrater ta pizza, tu as besoin de l'hydrateur Black & Decker,
ouais.
Qui est dans le film aussi. Ensuite, on avait la montre Casio de Marty, la marque de caleçon Calvin Klein ou Pierre Cardin en français, ou Lévi-Strauss dans la version italienne, je l'ai découvert.
Ah ouais.
Ouais. Nous, on était là, Pierre Cardin. Quand j'ai découvert la version américaine, je me disais, putain, mais c'était Calvin Klein, on m'a menti depuis le début. Parce qu'au final... Ils ont considéré que quand c'est sorti, Calvin Klein, ça n'avait pas encore des sorts en France. Alors qu'en fait, maintenant, bon, si tu dis Calvin Klein, tout le monde connaît.
Puis la version belge, c'est Laurent Serrer, je crois.
De quoi ?
C'est Laurent Serrer ou Brice, je sais plus, version belge. Non, je rigole pas.
Et du coup, et oui, aussi les stations de service Texaco, etc. Et j'ai une petite anecdote tabzienne sur le placement de produits de Retour à le futur. La marque California Raisins avait conclu un accord pour apparaître dans le film pour un budget de 50 000 dollars. À l'époque, ils espéraient un coup de pub comme le coup de pub provoqué par la Macrise dans E.T. On en avait parlé dans un podcast ou dans un table, je ne sais plus. En tout cas,
et comme on est des fondus de Cinoche, on en parle souvent au téléphone, par texto.
Ouais, c'est ça.
Donc on ne sait jamais. Hein.
La Macrise qui avait donc triplé la vente. Elle a triplé ses ventes en étant apparue dans le film E.T. Et donc, California Raisins, si vous voulez la même chose, je dis Raisins, c'est raisin, hein, vous avez compris.
Bah, c'est mieux que Romac.
Tu dis pas Romac, toi.
California Raisin, c'est California Raisin. Et donc, ils étaient originellement prévu de mettre le raisin sur la table lors du bal de promo dans Retour le futur. Mais finalement, Bob Gale, il s'est dit que ça n'allait pas du tout, ce plan, etc. Et il a changé et il a du coup juste mis le logo sur le banc où on voit le clochard Red dormir dans le film.
Évidemment, donc t'associes ça au clodo. Quoi.
Ouais, voilà. Et donc California Raisins, ils ont dit bah
c'est pas ouf.
Bah non, c'est relou. En fait, ça va. Du coup, c'est pas bien. On n'est pas content parce que du coup, ça nous fait pas du tout de pub. Et en fait, ils ont récupéré leurs 50 000 dollars, figurez-vous.
Ah ouais.
Ouais, finalement,
ah bien joué.
Pas mal.
Donc ils ont quand même un banc dans Retour à le futur, gratos.
Ouais, gratos, mais bon.
C'est pas mal.
Qui s'en souvient, quoi. Enfin, qui se dit tiens, ça me donne envie de manger des raisins. Ouais. Et donc Bob Gale a déclaré par la suite qu'il ne voudrait plus jamais travailler avec des placements de produits. Et autre anecdote tabzienne pour vous, il existe un film entre les deux marques de soda où on a changé de soda favori entre le 1 et le 2. Savez-vous lequel ?
Un film.
Un film. Où dans
Terminator.
Dans le 1, ils boivent du Pepsi.
Ouais.
Et dans le 2, finalement, ils boivent du Coca.
Terminator.
Et pourtant, il y avait même une petite vanne dessus.
Wayne's World ?
Non. C'est Maman, j'ai raté l'avion, figure.
Ah ouais.
Le petit Fuller.
Ah, même il pisse au lit à cause
de ça. Voilà.
Fuller, il est fan de Pepsi dans le 1. Et il change de soda préféré dans le 2. Et en fait, c'est simplement une histoire de gros sous. Coca, ils ont dit non, attends, ça a bien marché ça. Et ils ont mis du Coca dans le 2. C'est complètement débile. Vous l'aurez compris, à partir des années 80, c'est l'amour fou entre les marques et le cinéma. On pense aux plus iconiques comme les Ray-Ban dans Top Gun, Risky Business ou Reservoir Dog.
D'ailleurs, les Ray-Ban dans, je sais pas si t'as parlé, mais les Ray-Ban dans Top Gun. Non, dans Rain Man, pardon. Mm. Dans Rain Man, il a des Ray-Ban, Tom Cruise. Et à l'époque, les Ray-Ban, c'était presque en crise. Ça allait probablement fermer. Finalement, Rain Man a fait un carton. Et comme il était méga beau gosse dans le film, tout le monde a voulu la paire de lunettes Ray-Ban de Tom Cruise. Et donc, c'est grâce à Tom Cruise que Ray-Ban est aujourd'hui encore au firmament.
Incroyable.
C'est fou. Après, je me suis posé cette question de est-ce que j'ai déjà vu un truc dans un film où je me suis dit putain, je les veux, tu vois.
J'ai vu ça avec La Foire Fouille.
Ouais.
Dans un Louis la Brocante.
Tu sais qu'en vrai, je passe toujours un bon moment quand je vais à La Foire Fouille.
Ah ouais.
Ou genre, tu sais, chez Jiffy.
Ouais, chez Jiffy,
mais je passe un bon moment. Il y a toujours plein de trucs à regarder. C'est vraiment plus un premier degré en plus.
Jiffy, le rayon fête, on s'en régale. Avec les tabliers.
Et avec des trucs très sexuels. Et tu te demandes qu'est-ce que ça fait là aussi.
Les petits stylos God et tout.
Quand j'étais petit, ça m'intriguait.
Tablier avec des nichons en plastique écrit c'est maman qui régale. Allez, bravo.
C'est maman qui régale.
Donc évidemment, il y a aussi un autre produit iconique dans les films, c'est les Onitsuka Tiger de Asics dans Kill Bill, qui a boosté les ventes à fond. Les Nike dans Les Blancs ne savent pas sauter. Les Cheerios dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. On n'y pense pas assez. Et les Nike Cortez de Forrest Gump. Alors les Nike Cortez de Forrest Gump, bon voilà.
Et d'ailleurs, on les voit pas, mais j'ai appris récemment que Batman, donc Michael Keaton, avait ses bottes, elles ont été coloriées, mais c'est des Air Jordan en fait. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout un placement de produit, parce qu'on voit pas que c'est des Air Jordan, mais ils ont pris les bases des Air Jordan pour faire les bottes de Batman.
Mais tu sais, ce qui est drôle dans les placements de produits, je me disais ça, c'est pareil, tu sais, il y a plein de films français où d'un seul coup, tu sais, il y a un repas et une bouteille de cristalline sur la table. Mais on n'y pense pas du tout, tu vois. Genre, mais en fait, c'est un placement de produit.
En même temps, ce serait bizarre dans les étiquettes.
Est-ce que c'est vraiment des placements de produits? Parce que parfois, ils ont besoin de bouffe.
Non, ils sont obligés.
C'est comme par
exemple, sinon, tu dois les...
Ils inventent la marque.
Mais je suis pas sûr.
Tu les inventes ou tu dois les barrer.
Mais je suis pas sûr parce que, tu vois, récemment, j'ai vu Manhunter de Michael Mann, qui est le premier film qui parle d'Hannibal Lecter. Parce qu'on pense tous au Silence des Agneaux, mais avant ça, il y a eu un premier film sur Hannibal Lecter. C'est Manhunter. Et il y a une scène où il est au supermarché. Il est dans une allée avec son fils. Et là, on voit 1000 produits. Je pense pas qu'ils ont. Tu vois,
oui, c'est vrai que dans les scènes, dans les magasins.
Bah ouais, tu vois.
Moi, je pense que s'il n'y a
c'est
pas
une
transaction.
Question,
bah, de toute façon, par exemple, c'est la même scène dans Shining dont on parlait juste avant. Et tu sais, ils sont dans la réserve. Ils n'en parlent pas de la sauce Heinz.
Mais ça, par contre, c'est un placement de produit, ça, par contre.
Mais tu sais, il y en a partout. En fait, c'est genre dans une réserve, tu vois.
Ouais, mais il y a juste ça en marche, je crois. Alors que là, dans la scène, on voit vraiment genre 1000 boîtes de céréales. on voit des
j'ai
des
l'impression qu'ils sont plus ou moins obligés, en vrai, tu vois.
Moi je pense que
si on peut à mon avis, c'est si on peut la lire en entier et si on la reconnaît, tu vois.
Moi, ouais. Je pense que c'est comme avec Internet, c'est légalement, juste tu dois préciser, tu vois, à l'État ou je sais pas quoi, ah si ouais. T'as eu de l'argent pour ça, mais que tu... Je pense que t'as le droit de faire de la pub pour une marque. Tu vois. Enfin, je sais pas, en même temps, c'est peut-être un peu...
Je sais
qu'à la télé, il y a des lois...
Vous tournez tous vers moi comme si j'étais juriste, mais j'ai simplement...
Il y a des lois. Marques.
Alors ça, c'est un peu une légende, il paraît, mais il paraît que... Non, mais il paraît que si t'en cites une, ouais, pour pas qu'il y ait concurrence ou je sais pas quoi, t'es obligé de citer dans le même domaine des marques.
Exactement. Ouais.
Ah, je vais voir la Pepsi, Coca, Fanta.
Non, mais ce qui est bien, c'est que nous, on s'en bat les couilles.
Fanta, il y a des trucs qui sont dans le même groupe, donc je sais même pas si ça marche.
Ah ouais, c'est Coca. Du coup, Fanta, c'est Coca, ouais. Alors tu peux pas le faire.
Mais pour revenir au placement de produits dans les années 80-90, non, mais sans problème, il n'y a pas de problème. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça arrivait tellement à saturation que même certains films se sont moqués de leur propre placement de produits. Et évidemment, on pense à la scène culte de Wayne's World, quand Wayne et Garth disent qu'ils ne s'inclineront jamais devant un sponsor. Ouais. Et ils le font en mangeant de la pizza de chez Pizza Hut, des Doritos, en complet Reebok, en avalant même un médicament pour le mal de tête, en buvant une gorgée de Pepsi. C'est quand même une grande scène, si vous ne la connaissez pas, je vous conseille d'aller la voir. On pense aussi à la Cité de la Peur et la fausse pub de la Safran, qu'elle est bien pour la conduire. Mais aussi, évidemment, dans le film dont on parle aujourd'hui, Truman Show, où en fait, tout est, en fait, c'est ponctué, je pense, de je sais pas combien de placements de produits dans le truc.
Ouais, je crois qu'il y en a 4 fausse... 5, je crois.
Les jumeaux à chaque fois qui plaquent le plaque. C'est légendaire.
C'est trop. Voilà, c'est exactement.
Bon, et bref. C'est un des éléments aussi qui fait péter un câble aussi à Truman à un moment. Ouais. Où il devient fou dans la cuisine. Et justement, il y a une vanne autour du couteau où il dit: bon, t'as le choix, soit je te.
Ouais, tu m'épules.
Tu peux m'éplucher, tu peux me. Ouais. Enfin, ouais.
D'ailleurs, pour moi, une des meilleures vannes de Truman Show, c'est. Ça fait partie de ces affiches qu'on voit un peu partout dans le film. Quand il entre dans l'agence de voyage et qu'on voit un avion percler des clairs comme ça,
crever.
Il est marqué ça peut vous arriver.
Ça peut vous arriver. Il,
c'est tellement drôle,
c'est très drôle.
L'anti-pub.
Donc, en termes de chiffres, on considère que le film avec le plus de placements de produits de l'histoire, alors c'est un film que j'ai pas vu, mais vous l'avez peut-être vu, c'est Transformers 3.
Ah ouais.
Mais c'est catastrophique parce qu'il y a 71 placements de produits dans le film sur 157 minutes de film, soit un placement de produit toutes les 2 minutes environ.
Wow.
Il y en a un qui est pas mal aussi, c'est Les Visiteurs 2.
Ah ouais.
Il y en a 20 000.
Ouais, il y en a 20 000. Et le plus ridicule, c'est le considéré comme le plus ridicule dans le, sur Internet, hein, sur le web, c'est dans World War Z avec Brad Pitt, où entre deux attaques de zombies, il se désaltère dans un... Tu vois ?
Ça me revient.
Dans un distributeur de boissons, et le distributeur de boissons ne contient que du Pepsi.
Oui.
Et du coup, il y a vraiment une scène où il est en plan serré et il boit son Pepsi au milieu du film. T'es là. En fait, il y a des zombies là, qui vont te défoncer. En fait. C'est assez ridicule.
Tu sais qu'il y a une scène de distributeur que j'adore dans l'histoire du cinéma. Et comme un con, j'ai oublié le titre du film, là, ça ne me revient pas, on cite beaucoup trop de trucs. Mais c'est avec, je crois que c'est avec Viggo Mortensen. À la base, c'était un roman. C'est un père et son fils dans un monde apocalyptique.
La route,
merci. Et il y a une scène dans La Route que j'adore, c'est qu'en fait, donc, ils vivent dans un futur où ils doivent trouver de la bouffe là où il y en a. C'est 30 ans ou 40 ans après. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé,
ouais.
Mais il n'y a plus vraiment d'humains sur Terre.
Pas trop de ça, ouais.
Il y a 40 enfants de 8 ans qui se baladent.
Et donc, il se balade avec son fils un peu partout. Et son fils, il doit avoir 8 ans, donc lui, il n'a pas connu le monde d'avant. Et un jour, il se balade et il tombe sur un vieux distributeur un peu dégueulasse et tout. Sauf qu'il y a encore des canettes à l'intérieur. Et là, à l'intérieur, il y a une canette de Coca. Et lui, ça fait peut-être 10 ans qu'il n'a pas bu de Coca. Et il sort cette canette de Coca, et ce moment où on entend le petit pchit, comme ça, quand il ouvre le truc, et qu'il prend la première gorgée, et qu'après il fait goûter à son fils, mais on arrive à ressentir ce truc de putain, j'ai pas bu de Coca pendant 10 ans, et là j'en bois, et ça c'est la meilleure des pubs pour Coca, du coup. Tu
m'étonnes. Ouais.
C'est ouf. Ouais.
Et en parlant de boisson, savez-vous quel est le plus cher placement produit de l'histoire?
Non.
Je peux vous le dire,
c'était la farfouille justement.
C'était la farfouille. Mais c'était la farfouille pour un. C'est la farfouille dans Skyfall.
Ah ouais, pas mal.
C'est pour un porte-clés stylo lumineux.
Ah, c'est un gadget
avec un bob.
Figurez-vous que Heineken a déboursé 36 millions de dollars pour que James Bond boive une Heineken dans Skyfall.
Mais qui l'a vu?
Oh,
il l'a bu.
Qui l'a vu? Tu l'as vu? Oui. La Heineken, toi?
Ouais, en fait, j'ai regardé la scène. Ah, okay. Il est dans un lit.
Et on la voit bien.
Il est dans un lit et il boit une.
Surtout que c'est pas très classe.
Bah non.
Mais alors attends,
c'est quoi, c'est une canette?
Une villageoise,
une bouteille.
Une 8-6?
C'est une petite bière en bouteille. Non, et justement, ça rejoint ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, bon, après, ils ont fait un spot de pub avec Daniel Craig en lui-même qui fait la pub pour la Heineken. Okay. Mais la vraie question quand on fait ce genre de placement de produit, c'est est-ce que ça change l'image du produit? Est-ce qu'à un moment, la Heineken, maintenant, c'est devenu une bière de mecs
Je pense que ça marche un petit peu quand même. Tu vois.
Parce que pour moi, c'est resté la bière des mecs de Canal Saint-Martin. Ça n'a rien changé. Je sais pas pour vous, mais.
Non, mais tu vois, par exemple, Retour au futur, c'est un très bon exemple parce que les marques qu'on voit dans le film ont contribué à les rendre cool.
Ouais, c'est vrai. Mais là, pour le coup. Juste l'exemple de Heineken, je me suis dit non, mais.
Et pour le coup, sûrement impossible en France. Tu vois, avec la loi E20, je sais pas quoi là.
Ah oui, par contre, c'est incroyable.
Comme la cigarette d'ailleurs. Cigarette, il n'y a pas des lois qui entourent.
Bah, déjà, il faut savoir que sur Netflix, sur le Netflix US, c'est quand même, je trouve ça assez incroyable, sur le Netflix US, qui a vu Breakfast Club autour de cette table, le film ? Il y a une scène où à un moment donné, le plus sage des élèves, visuellement, fume un joint à la fin. Ouais. Et en fait, sur le poster, enfin sur l'image, il fume un joint et sur l'image, il a remplacé le joint par un stylo.
Oh, il y a eu la même chose avec
Jacques Tati. Il y a eu la même chose. Il y avait une rétrospective Jacques Tati à la Cinémathèque française il y a quelques années. Ouais. Ouais, rétrospective Jacques Tati. Et en fait, sur le poster.
Ils ont caché ses fesses avec des cheveux.
En fait, ils montraient sa table et ils ont dû l'enlever. Quoi. Non, en fait, ils fumaient la pipe et à la place de la pipe, ils ont mis une sorte de truc là, tu sais, quand tu fais la fête et que ça se déroule.
Ah, c'est partie de son personnage.
Une langue de belle-mère, c'est ça.
Ouais, mais pour Gainsbourg, ils font pareil.
Ils l'ont fait pour Pulp Fiction sur l'affiche.
Moi, j'avais j'avais l'énorme affiche de Pulp Fiction que j'avais achetée en 94 et déjà, elle était comme ça. Il y avait rien dans sa main.
Juste de la fumée, mais d'où vient la fumée? Des doigts? Qu'est-ce qui se passe?
On sait pas.
Mais dire ce qui est fou, c'est que le placement de produit, il a coûté 36 millions. Par exemple, si on prend un film comme le premier Alien, il a été tourné pour 9 millions. Imagine le prix, c'est ouf.
C'est fou, il a coûté 300 millions. Donc,
c'est pas mal, 36 sur 300.
Ouais. Juste ça a coûté 36 millions et ils ont éclaté à peu près le même budget en voiture qu'ils ont défoncé. Ils ont défoncé au moins 10 bagnoles, c'était l'équivalent de 36 millions.
Tu veux dire que Heineken, avec son placement pété, a acheté 10 bagnoles.
Ils ont remboursé Aston Martin qu'ils ont jeté dans leur avant. Quoi. Voilà. Et enfin, j'ai une question pour vous, messieurs.
Oui.
Il y a une marque qui est omniprésente dans le cinéma contemporain, mais qui n'a jamais déboursé d'argent pour y figurer. Quelle est-elle?
C'est des téléphones.
Quelle est la marque?
Apple.
iPhone?
Tu dis quoi, toi?
iPhone? Ah non.
Ou Samsung?
Ah non.
Ola.
Ola.
Motorola.
Motorola.
Non, Ola.
Non, Alcatel.
Savez-vous que la bonne réponse a été citée? C'était évidemment la marque Apple.
Ouais.
Apple, puisque tous les héros veulent avoir du Apple. Et en fait, Apple, ils n'ont même pas besoin de donner de la thune.
Ouais.
Ils sont sollicités tout le temps.
C'est ça qu'ils sont forts.
Et alors, j'ai une question pour Maxence ici.
C'est ce qui se passe d'ailleurs dans Tabs, hein. J'ai un Mac, mais ils m'ont pas du tout payé. Ils m'ont battu les couilles totalement.
Ma question de fin, elle rejoint ce que tu dis. Est-ce que vous avez été sollicité par des marques pour des placements de produits dans vos vidéos? Est-ce que ça vous pose problème? Est-ce que vous seriez OK pour toutes les marques?
C'est une vraie question de société qui pose.
Alors moi, je refuse beaucoup de choses.
C'est vrai?
Honnêtement, j'ai refusé pas mal de trucs pour des questions.
36 millions pour boire une Heineken, c'est non?
Non, ouais, non. Bah non, mais justement, j'aime bien justement choisir quand même parce que j'estime qu'on... Quand tu es considéré influenceur, c'est pas pour rien, tu vois, tu as vraiment une influence. Et je me dis, j'ai pas envie de vendre de la merde à des gens, et donc j'essaie quand même de trier. Et il y a des marques même pour lesquelles je trouve pas ça cool éthiquement, tu vois. Et j'ai déjà refusé des trucs parce que, bah, même s'il y avait une belle somme, enfin, je pars de ce principe-là, quoi.
Mais je suis assez d'accord, nous, sur Tales from the Click, on a très souvent travaillé avec des marques qui sont de près ou de loin en lien avec ce qu'on fait, à savoir parler de cinéma.
Ouais, voilà.
On a travaillé avec Warner, avec Netflix,
des
avec
fois,
la FNAC.
Ça va trop loin et. Enfin voilà, justement, là, on a cité des boissons et j'ai pas envie de faire de la pub pour ces boissons-là, tu vois, par exemple.
Mais la farfouille, par contre.
La farfouille, mais évidemment.
J'y fuis. Et après, ce qui est marrant, c'est que maintenant, le placement de produit, il est plus vraiment orienté vers le cinéma, il est orienté à fond vers les clips.
Ouais.
Vers les clips vidéo.
Les clips, c'est terrible.
Maintenant, c'est terrible. Il n'y a pas un seul clip où tu vois pas des Beats by Dre, une enceinte.
Un clip de. Ah, comment il s'appelle? Ah, mince.
Florent Pagny?
Les menottes tunisiano?
Non,
l'Algérino. Pardon, excusez-moi. Un de ses clips récents, il est dans un jet et on lui sert un tacos de chez Otakos.
Non,
c'est légendaire. Et tu vois un gros plan dessus.
Alors, faut savoir
qu'il est magnifique.
Tu veux plus rien dire.
Tu vois, ce genre de choses.
Otakos, ça a été notre pire expérience avec Guillaume de bouffe.
Ah ouais.
Pire expérience culinaire jamais égalée.
Ah, c'est difficile.
J'ai un pote qui a failli finir le giga. C'était son dernier repas d'omnivore. Et il a failli le finir et il m'a dit.
On a mangé un Otakos il y a quoi, il y a 3-4 ans?
Ouais.
Et c'était la première fois qu'on mangeait ça, et c'est un des rares trucs que j'ai pas fini.
C'est notre petit plaisir quand on finit un vidéo store, après on commande un truc, on mange et tout. Et d'habitude, on a un petit plaisir. Et là, on était dégoûtés. Vraiment, on suait de l'huile.
Ça vous a gâché la journée, genre. Non,
mais c'est rare que je finisse pas un plat, et là, c'était odieux.
On a fini, on a tout jeté et tout.
Et là, vous venez de faire un anti-placement de produit.
C'est vrai que c'est un anti-placement de produit, quand même.
Et attends,
j'aurais jamais eu ta cause dans vidéo store.
Pour revenir sur ton anecdote d'Apple. J'ai entendu dire que Apple interdit aux méchants des films d'avoir des iPhones.
Ah, c'est cool ça.
Ah, c'est possible, ça.
J'ai lu un article là-dessus et je trouvais ça trop intelligent. Enfin,
par contre,
parce qu'ils ne veulent pas que, bah, du coup, tu aies une image négative.
Ouais. Ouais, souvent, j'adore,
il y a plein de films où tu regardes et même des films qui ont été tournés récemment où tu dis, bon, bah, le héros, il va avoir un téléphone comme on a tous, tu sais. Ils ont encore des téléphones à clapet.
Oui, totalement.
Et je me suis toujours demandé pourquoi, tu vois. Je dis parce que, je vois.
Peut-être qu'on voit pas la marque.
Pas qu'on repère, ouais, qu'on dise, ouais. Ah tiens, c'est tel, mais pour tel
finir
OnePlus.
Sur, pour finir sur Apple, j'ai revu un film que j'aime beaucoup récemment qui s'appelle Ce que veulent les femmes de Nancy Meyers avec Mel Gibson.
Ouais. Ouais.
Bah, vraiment, le genre de film que je regarde le dimanche, tu sais, le dimanche soir à la cool, tranquille, quoi. Très cool. Tu connais Maxence ce film ou pas?
Du tout.
En gros, c'est très bien.
J'ai même déjà oublié. Là.
C'est avec Mel Gibson. T'es vraiment pas tenté pour le
zéro
film.
Zéro inception.
En fait, c'est un film avec Mel Gibson et Helen Hunt. Et en fait, Mel Gibson, du jour au lendemain, il a un pouvoir. C'est qu'en fait, il entend ce que les meufs pensent autour de lui.
Ok.
Donc,
mais que les femmes
pouvoir. Que les femmes. Ouais.
Terrible. Terrible pouvoir.
Donc, non, mais c'est cool. Au début, lui, il pense que c'est un pouvoir terrible, mais en fait, il le prend à son avantage au fil des jours. Mmh. Quoi, tu vois. Ce qui fait qu'il baisse comme un dieu au bout d'un moment, parce que les meufs sont là, genre, ah non, je veux comme ça, comme
c'est
ça.
C'est l'initiateur du thème produit sexe, ça m'aide lui.
Écoute, pourquoi pas. Et du coup, dans ce film, il a un Mac, Mel Gibson, et en fait, dans ce Mac, le film a été tourné dans les années 90, et quand tu soulèves ton MacBook, en gros, pour les gens qui regardent ton Mac, la pomme, elle est à l'envers. Et ça, c'est un truc qui a changé avec le temps. Mmh. Et je pense que les mecs de chez Apple, ils se sont dit, bah, pour notre marque, et ça fait partie des trucs placement de produits, c'est mieux d'avoir la pomme à l'endroit pour les gens qui regardent le Mac de derrière. Ouais, parce que ça te fait une pub, en fait, en vrai.
Ah, c'est vrai, c'était comme ça avant.
Ouais, en fait, avant les Macs, quand tu lèves ton Mac, la pomme est à l'envers. La pomme, elle est pour toi quand le Mac est fermé.
Mais tu le vois pas? Ah, quand il est fermé.
Quand il est fermé, tu vois la pomme et tu dis, ah, ok, cool.
Mais en fait, ils l'ont changé parce que c'est une pub ambilante.
Oui, pour les surtout DJ, quand il est fermé, tu peux juste le. Enfin,
parce que moi, en fait, quand je vois la pomme à l'envers, je comprends pas la marque.
Mais c'est ça,
ouais, c'est ça aussi.
Donc en fait, ils ont anticipé les teubés comme toi et ils se sont dit, les mecs comprennent pas que c'est Apple.
Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à comprendre.
Et ça, donc du coup, maintenant, ils savent.
Ah, mais c'est une pomme?
Mais c'est ça. Bah, du coup, merci Guillaume.
Avec plaisir, les amis.
Très bien. Je vais me rajouter que les pompes de Ellen Ripley dans Alien, c'est des Reebok.
Ah oui, mais j'avais une question pour vous. Si je vous dis placement de produit dans un film, vous pensez à quoi d'un coup là?
Bah là, t'as parlé d'autre chose, mais moi en vrai, c'est Wayne's World. C'est le placement de produit qui a été le mieux utilisé dans les films.
Je me suis posé la question quand je faisais le truc, le truc iconique où je penserais à un placement de produit.
Non, il y en a un.
Moi j'en ai un, c'est le Big Mac dans Pulp Fiction.
Exactement.
Le Big Mac.
Et d'ailleurs, dans Pulp Fiction, c'est pratiquement que des marques inventées par Tarantino. Et Tarantino a l'habitude de faire ça, des fausses cigarettes, des faux burgers.
Et je crois que même à aucun moment on voit la marque. Juste, il le cite.
Il parle de commencer
en France. Pour répondre à ta question, un placement de produit finalement que tu n'as pas cité et qui est culte, c'est les Cortez Nike de Tom Hanks dans Forrest Gump.
Mais si, je l'ai cité.
Ah, tu l'as cité.
Il n'y a pas de quoi. Voilà.
Écoute, désolé.
Merci d'avoir écouté.
Ça me rappelle quand j'étais en cours et que je me faisais surprendre.
J'ai l'impression qu'il y a un peu
j'ai eu exactement ça quand tu m'as dit.
Bah, tu vois.
Est-ce que
t'as
vu le film?
C'est comme ça.
J'ai exactement ça.
Merci, Guillaume.
Mais il n'y a pas de quoi.
Merci, Guillaume.
Alors, qui aime bien le crunch ici? Tu vois, je fais une transition.
Ah ouais!
Je fais une transition sur ta chronique.
Produit crunch.
Qui aime bien le crunch ici?
Le mouvement des abdos, tu veux dire?
Ah non, pas du tout. Ah non, la bouffe.
Ah,
oui, mais c'est vrai pour moi, j'adore le crunch.
Chocolat. Ça tombe bien, car si vous aimez les barres chocolatées croustillantes, vous aimerez aussi les anecdotes croustillantes. Forcément.
On va cruncher. Merci.
Et j'en ai plein sur The Truman Show.
Merci.
J'en ai énormément, ça va vous régaler, attention. Hein. Je tiens à vous prévenir. Alors déjà, figurez-vous qu'à la base, le film aurait pu être réalisé par Brian De Palma.
Non.
C'est exactement l'émotion que je veux quand je te dis.
Vas-y, je te fais la même. Tu me dis si tu veux que je l'amplifie ou pas.
Sauf que lui. Il voulait pas Jim Carrey, Maxence.
Oh.
Ah ouais, mais là t'es vraiment surpris là pour le coup.
Il voulait
pas Jim Carrey, il voulait à tout prix
Patrick
Tom Hanks.
Tom Hanks, ça fonctionne aussi. Hein.
Il voulait Tom Hanks à fond, mais finalement Paramount, qui a produit le film, a tenu bon et n'a pas cédé, ce qui fait que De Palma a été écarté du projet pour d'autres raisons aussi de salaire, etc. Mais lui, il voulait Tom Hanks à fond pour faire le film. Et c'est vrai qu'avec Tom Hanks, ça marche, non?
Ça
marche
avec Tom Hanks.
Il aurait pas été un peu trop vieux.
Ça marche. Je suis d'accord et je dirais même ça marche et ça me fait penser que ça pourrait être interchangeable dans pas mal de rôles Jim Carrey et Tom Hanks. Est-ce que Forrest Gump avec Jim Carrey ça marche?
Ouais, toi Tom Hanks tu veux mettre dans tous les films en fait.
Ouais, je sais pas.
En même temps c'est tellement ancré,
mettre dans Transformers, c'est tellement dur.
Mais c'est ça qui est incroyable avec
Tom Hanks
avec
sans le masque, ça marche pas.
Bons films, c'est que souvent on lit ces histoires de machin aurait pu jouer le rôle et tout machin et ça nous paraît inconcevable parce qu'on a tellement vu le film et tout. Alors qu'en vrai, si ce mec avait joué le film, on serait là genre, bah oui, c'est inconcevable que ce soit Tom Hanks dans Forrest Gump.
Mais c'est comme ce même effet qu'on a avec Retour vers le futur, qui avait à la base été joué par un autre acteur dont j'ai oublié le nom. Et tu vois la comparaison des scènes et tout.
Eric Stoltz.
Et ben, je vais en parler après.
Ça fait tellement bizarre.
Tu m'offres une bonne transition. Alors, Autre info, apparemment l'histoire serait inspirée d'un épisode de la série La Quatrième Dimension.
Non ah
série culte aux États-Unis.
Non.
Ben oui, mais écoute Maxence, t'es sur le cul toi depuis tout à l'heure, hein, c'est incroyable. Série culte aux États-Unis puisque l'épisode 69 raconte exactement la même chose. Mais c'est seulement une théorie puisque ça n'a pas été confirmé par le scénariste du film. Et ce scénariste s'appelle Andrew Niccol. Est-ce que vous connaissez Andrew Niccol? Et je vais dire à Aurélien de ne pas répondre parce que je sais que tu le connais, on en a parlé hors antenne.
C'est son Guillaume pas.
Et Maxence, est-ce que vous connaissez Andrew Niccol?
Non,
non.
Bah, en fait, je voulais voir profiter de votre inculture pour la suite de ma chronique.
Ouais, c'est gentil.
On fait exprès, on connaît très bien.
Alors, est-ce que
on est pas étonné,
hein. Donc, on connaît pas Andrew Niccol. Eh bien, ce type, c'est un Néo-Zélandais assez méconnu du grand public, alors qu'il a une histoire très cool. En gros, son premier job a été d'écrire le scénario de Truman Show. Tu imagines dans le milieu, c'est ton premier truc, t'as écrit de Truman Show. Ça, c'est ouf. C'est plutôt pas mal comme début de carrière. Mais s'il a écrit ce film, c'est dans l'espoir de le vendre, de vendre le script et de pouvoir ainsi réaliser un projet qui lui tenait à cœur depuis des années, à savoir le film Bienvenue à Gattaca, qu'il a pu réaliser en partie grâce à cet argent en 97.
C'est ouf,
en fait, ce film, il l'a réalisé grâce à la vente en partie de son
script.
C'est
un job alimentaire quoi, pour lui, Truman Show.
C'est fou, hein, t'imagines
l'économie,
là où nous, on fait nos placements de produits pour les pitchs.
C'est ça.
Lui, en fait, ça change.
Lui, c'est Truman Show.
C'est un placement de produits.
Bienvenue à Gattaca, très bon film de science-fiction avec Jude Law, Ethan Hawke et Uma Thurman. Andrew Niccol réalisa par la suite Simone, autre film de science-fiction avec Al Pacino, puis Lord of War avec Nicolas Cage ou encore Time Out avec Justin Timberlake que j'avais trouvé assez cool, j'avais vu ça au ciné. Et au passage, lui ne voulait pas Tom Hanks, mais Robin Williams, puisqu'il a écrit le scénario de The Truman Show en pensant à lui.
Tout s'explique.
S'explique. Ouais. Et Robin Williams aurait pu fonctionner aussi dans The Truman Show.
Ouais, totalement.
Mais trop vieux quand même.
Oui.
C'est le mec, oh, j'ai 70 ans, je découvre que j'ai un monde. C'est un peu relou quand même.
Alors, dans le film, il y a un autre personnage important, celui de Christophe, interprété par l'excellent Ed Harris.
Il est énervant.
Il est énervant.
Hein. Oh, il
est très énervant. Christophe, c'est le type qui a créé The Truman Show et qui se prend pour Dieu dans le film.
Ouais.
Eh bien, figurez-vous qu'à la base... Attention Maxence, figurez-vous qu'à la base,
attends.
Ça aurait dû être Denis Hopper.
Non,
non, bah non. Mais attention, ça va encore plus loin.
Denis Hopper,
là, t'as lâché ton nom un peu trop vite parce que ça va au-delà de ça.
Non.
Ça va au-delà de la rumeur car Denis Hopper avait été engagé. Il a même tourné durant 3 semaines. Mais le réalisateur Peter Weir n'a pas été satisfait de son jeu d'acteur et l'a renvoyé au bout d'une 20aine de jours.
Aïe, 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 aïe.
Cela ressemble à une histoire qu'on a racontée dans le précédent podcast que Maxence vient d'aborder, d'Eric Stoltz, qui se fait virer de Retour vers le futur avant de laisser sa place à Michael J. Fox. Donc en fait, Denis Hopper a joué 3 semaines, c'était lui, Christophe.
Incroyable.
Et Peter Weir était là,
genre... humilié.
Oh. Ah, c'est relou, hein. Ah si, quand même, c'est relou, quand même.
Attends, c'est Denis Hopper.
Tu joues là pendant 3 semaines.
Oui, oui, mais tu sais...
Ça veut dire que son dernier rôle, c'était Koopa Troopa dans Mario.
Aïe, aïe, aïe. Non, mais s'il a eu le...
C'était Speed.
Bah, non, mais en fait, justement, s'il a eu le casting de The Truman Show, c'est grâce à Speed, parce que ouais, Speed, ça a marqué son retour, en fait.
Ouais, c'est ça.
Puis c'est grâce à Truman Show que Jim Carrey fait Docteur Robotnik, hein, maintenant.
Ouais, je crois que c'est sourcé, ça, ou pas?
Ouais, grâce à ça. Il voulait faire Docteur Robotnik, et grâce à...
Mais écoute, pourquoi pas? Alors, le tournage du film a débuté le 9 décembre 1996.
Non.
Mais n'est sorti que...
Ok, c'était trop tôt.
Ouais, c'était trop tôt.
Okay, pardon. Okay. Mais,
donc le film a été tourné... le tournage du film, The Truman Show, a débuté le 9 décembre 1996, mais n'est sorti que le 5 juin 1998.
Ah ouais.
Pourquoi, à votre avis? Ça fait quand même beaucoup de 2 ans entre le début d'un tournage.
L'actualité.
Ouais, COVID. L'actualité. Le Covid, ouais. Le Covid pour Maxence.
Parce qu'ils ont pris leur temps, bien tranquillement.
Ouais, tranquillement. Aurélien, non, t'as une petite idée de pourquoi ils l'ont sorti si tard?
Non, il réalisait un autre film en même temps, non?
En fait, il était... Donc, le tournage a débuté le 9 décembre 1996. Il devait sortir en 1997. Mais si Paramount...
La Coupe du Monde.
C'est tout chiffre pair, les Coupes du Monde, figure-toi.
Ah ouais,
non, c'était pour la sortie de Titanic.
Ah, c'est ça.
Le mastodonte, okay. En fait.
Je me doutais qu'il y avait...
Et en fait, ils avaient peur de le sortir au même moment que Titanic. Du coup, ils se sont dit, ok, autant mieux le repousser encore d'un an. Comme ça, Titanic, c'est fini.
Donc, Titanic,
c'est creux.
Je sais pas si vous le savez. Enfin, c'est une question. Hein. Titanic, on savait que ça allait avoir l'impact que ça allait avoir, du coup. Avant de le faire.
Parce que réalisé par James Cameron et surtout.
Il était déjà confirmé, James Cameron.
C'est un des plus gros budgets.
Non, il était confirmé et surtout, c'est le plus gros budget à l'époque.
Ouais. D'accord.
Donc après, tout le monde connaissait déjà l'histoire aussi.
Ok, ok. Ça marche.
Ouais, ça marche.
Tout le monde avait déjà vu le film, en fait.
Ça marche. Alors. Il y a une scène très cool dans le film, celle où l'on voit Truman Burbock devant le miroir de la salle de bain dessinant une combinaison d'astronautes.
Ah ouais.
Eh bien, cette scène n'était pas du tout prévue dans le scénario, c'est une improvisation de Jim Carrey.
Ah, non.
Ça régale, ça vous
plaît. Surtout qu'il se pose des questions, en plus, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il est dépressif? Ouais. Ah non, c'est le bon Truman qu'on retrouve et tout.
Ça va être un plaisir de bosser avec Jim Carrey quand t'es réalisateur, parce qu'il a plein d'impro mais qui sont cool. Tu sais, t'es là, genre. Ça,
tu le sens dans ses rires et dans ses esclaffements. Tu sens que c'est lui. Ouais. Tu sens que c'est un truc qu'on lui a pas demandé de faire.
Tu vois, c'est comme quand il dit bonjour, quand il sort de la maison et qu'il dit bonjour et qu'il met sa tête en arrière.
Tu sens que
ça, c'est probablement lui, tu vois.
C'est sûr, non, mais c'est sûr, c'est certain.
La ville dans laquelle vit Truman ressemble à un parc d'attractions. Là, vous avez vu le film il n'y a pas longtemps, donc vous l'avez bien en tête, cette ville un peu colorée. Exactement, Seven. On pourrait croire qu'elle a été construite pour le film, mais en fait, pas du tout. Cette ville d'apparence en carton-pâte existe vraiment. C'est la ville de Seaside.
Okay. Ah bon ?
En Floride.
Non ! Un peu tard, du coup.
Et donc, c'est
en Floride ?
Vous tapez Seaside, Floride, et j'ai tapé ça sur Google Images. Et c'est assez impressionnant parce que c'est clairement le décor de Truman Show. Quoi. Donc on peut vivre dans le décor de Truman Show.
Ça, c'est excellent. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça et tous les jours ils font style qu'ils vont.
Il y a des cosplays.
Eh, salut.
Et le chien plutôt, là, le dalmatien.
Est-ce qu'il y a un mec qui peut me plaquer contre le mur pour qu'on voit la pub, s'il vous plaît?
Guillaume?
Non, là, pas du tout. Je pensais à ça et j'allais dire c'est marrant parce qu'on peut aussi faire un placement de ville dans les films.
Bah ouais.
Bah oui.
Parce que ça me donne envie d'aller visiter cette ville, par exemple.
Coup, c'est très bon. Mais c'était aussi le cas pour un jour sans fin.
Ouais, pour un jour sans fin.
Non, mais en vrai, il y avait ça à cause du truc Netflix. Il paraît qu'il y a plein de gens dans le village. Mais ça m'a fait penser à ça.
Tout le monde a vu le documentaire sur l'affaire Grégory.
Moi, oui.
Oui.
Il y a cette scène assez incroyable où les gens venaient partout de France.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça.
Pour visiter la tombe, la pierre tombale.
Ça donne trop envie. Je comprends. Non, mais c'est espèce de tourisme macabre.
C'est dingue. Et en plus, quand il posait la question aux gens, c'était là genre non, pas du tout. J'étais dans le quartier. J'étais dans le coin. Je veux voir comme ça. Voilà.
C'est des stars. Qu'est-ce que tu veux? C'est la télé, tout ça encore.
Et surtout quand tu proposes ce voyage à ta meuf, bah c'est relou quoi.
Ouais, c'est
on fait quoi cet été? Bah je sais pas, on va voir la tombe du petit Grégory, tranquille.
Oh, terrible.
Alors, dernière info, tu vas plus pouvoir dire non, c'est dommage, c'est la dernière info. Bon, Peter Weir, le réalisateur australien de ce film, a indiqué dans une interview après le film que les deux personnages qui se rapprochaient le plus de Truman dans la vraie vie étaient... Tiens, moi, ça va être un petit jeu. Du coup, Truman, ça vous fait penser à quelle personnalité connue, la vie de Truman?
Mr. Rogers?
Non.
Non. Mais lui, il a cité deux personnes où, en gros, il a dit, bah voilà, ces personnes-là, bien malgré elles, ont la vie de Truman Show, malheureusement. De Truman Burbank dans le Truman Show.
Mais des gens qu'on connaît, je comprends pas.
Ouais, oui, c'est
question.
Des méga stars. En fait, la question, c'est... Peter Weir, on lui a posé une question, et lui, il a dit, dans la vraie vie, il y a des Truman. Sauf qu'il ne le souhaite pas, tu vois.
Des gens qu'on a vu naître et qui sont encore là et qu'on suit.
Ouais, que tout le monde, genre leur vie privée est suivie
par
tout le monde.
Kim Kardashian.
Bah en fait, lui, ce qu'il est, je vois que vous galérez, donc je vois aussi que j'ai très mal expliqué la question.
Ouais.
Donc, non, c'est Lady Di et Michael Jackson.
Ah ouais, ah, ouais, ouais, ouais.
Dans le mode.
Ah ouais, mais là, ça paraît logique.
Non, mais dans le mode où, en gros, on filme tous leurs faits et gestes, leur vie intime, etc. En gros, ouais, c'est des Truman alors qu'ils ne le souhaitent pas, quoi. Tu vois, c'est un peu la même chose.
Ah, c'est vrai.
Donc
c'est
voilà, vrai. C'était la dernière info, de ces infos croustillantes.
Bravo, très croustillant.
Hein, magnifique.
Bravo. Pas comme un tacos au tacos.
Aïe.
Pas très croustillant.
Beaucoup de placements ici, je trouve.
Les mecs, c'est déjà la fin de ce podcast.
Non.
Bah oui, c'est triste.
Non.
Et cette semaine, c'est à Aurélien de choisir le prochain film. Ouais. T'es donc allé sur l'outil Cinématcher. Et selon tes émotions, tu nous as choisi le prochain film.
Eh bah tout à fait, j'ai cliqué sur « À la maison », comme très régulièrement, 90, les années 90, c'est vraiment les années que j'adore, on va pas dire.
Adores.
Amérique du Nord, comme très souvent aussi, et j'avais envie d'être amoureux et bouleversé.
T'es comme ça, toi, encore une
fois. Ouais, je suis tombé sur un film qui m'a vraiment complété.
Très bien, mais écoute, j'ai hâte d'en parler, parce que moi je sais ce que c'est. Tu as des petits indices.
Tout à fait. Premier indice, je pense à une peinture.
Ok.
En deuxième indice, je pense à un orchestre.
Très bien.
Et en dernier indice, je pense à de la buée.
Intéressant. Très bien. Réponse dans deux semaines.
Exact.
Maxence.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu, ce qui se passe, ce qui va
là,
se passer?
L'actu, tu la connais. On voulait pas en parler, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas trop d'actu. Je prépare beaucoup de chansons. En ce moment, je suis grave dans la chanson, même si aussi la comédie, ça a toujours été un truc qui m'a animé. Et j'espère avoir des projets là-dedans. Mais je prépare des chansons et des tournées futures. Mais là, on est peut-être sur un album, on verra comment ça se présente. Mais je suis là-dessus. Très musical.
C'est donc la fin de ce podcast. Sachez qu'on est très heureux d'avoir pu enfin vous retrouver. Et comme avant, on se retrouve dans deux semaines. À bientôt, tout le monde.
Au revoir.
Salut.
Au revoir.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.